Mesdames et messieurs, bonsoir. Changement de cadre, j'ai dû modifier mon cadre. Je suis tout petit parce que j'avais cette affiche qu'on ne voit que pour partie d'ailleurs derrière moi. C'est un gros projet que je viens de lancer. C'est beaucoup de temps, beaucoup de préparation, beaucoup d'investissement que j'ai préparé en secret. Hein. J'en avais parlé à personne. Et bon, il y a toute une campagne de promotion qui est prévu, et avec ces affiches notamment qu'on va pouvoir là dans les prochains jours voir dans toutes les la plupart des villes de France, hein. Ouais. Voilà. Attendez, c'est de la qualité, hein. Bientôt au cul des bus, dans le métro. Ouais, donc là, c'est le tout début de la campagne. J'ai vu que le clip, on a tourné un clip avec l'équipe à la Défense, dans les locaux, parce qu'on vient de louer toute une plateforme à la Défense pour accueillir les premiers élèves de la promotion, pour ceux qui vont la suivre IRL. Et puis, y a tout le staff pour. Le site internet pour répondre aux calls, voilà. Non, c'est pas pour la présidentielle. Non, c'est pour ma formation en valo. Ah oui, parce que je commence par le début. Donc voilà, l'explication est très simple. Le projet sur lequel je travaillais, ça fait un moment que je vous parle de ce projet sur lequel je travaille secrètement depuis des mois. Je viens de lancer, je lance une formation Valorant. Voilà. Parce que bon, j'ai combien d'heures sur le jeu déjà? Je sais plus, je ne compte plus. Quand on aime, on ne compte plus. Et donc, je me suis dit, ben, cette expérience. Il faut la partager. Une formation pour qui? Bah, quiconque veut atteindre un bon niveau sur Valorant. Ouais. Hein, voilà, 1300 heures de stream, sans compter les heures à côté, quoi. Je me suis dit, cette expérience, il faut la partager. Voilà. Cette maîtrise de la technique, cette connaissance des maps, des agents, alors, certains plus que d'autres, bien sûr. Hein. Je me suis dit, il faut la partager, il faut pas garder ça pour soi. On peut utiliser le CPF, je suis en train d'échanger avec les autorités, bien sûr, pour que le CPF puisse être utilisé, effectivement. Voilà. Alors, du coup, c'est en partenariat avec Riot. Ouais, je sais pas si on le voit là. Alors, on le voit pas parce que la fiche est trop grande, mais effectivement, c'est en partenariat avec Valorant, avec Riot. Mais vraiment, quoi. Qui valident, en fait. C'est peut-être la première formation à être validée par Riot d'ailleurs. Voilà. Sam, tu as vu ce qui s'est passé à la commission aujourd'hui? Non, on s'en fout. Là, je suis sur ma formation là. La commission, c'est quand on aura le temps. Les clowns, là, ça va aller. Hein. On peut payer en Bitcoin, bien sûr. Bien sûr. CPF, faut être certifié Calliope. Oui, bon, on travaille là-dessus, ouais. Voilà. Comment ça, est-ce que tu as vu que Charles à l'oncle, t'as présenté ses excuses. Non. T'as pas vu? Non. Il a répondu à mon mail où je demandais des excuses. Ok, bon, on va y revenir tout à l'heure alors. Tiens donc.
Mais non! Mais hasard de dingue!
Ah ouais. Suite au mail que j'ai envoyé il y a quelques jours. Ok. Eh ben on verra ça tout à l'heure. Ok, on verra. Non. Parlons de ce qui est important. Voilà. Donc moi, je voudrais vraiment vous parler de ça très sérieusement parce que je pense que c'est un des plus gros projets que j'ai jamais lancé. J'ai beaucoup investi en temps, en moyens. Vous allez voir le clip. Je vais vous montrer le clip qu'on a tourné. Bon, bah, vous montre tout le sérieux de la démarche. Voilà. Il y a des affiches comme ça, vous allez en avoir dans toute la France. Et puis, il a fallu bosser sur cette méthode. Je me suis entouré des meilleurs. J'ai beaucoup parlé avec des joueurs pros, avec des streamers qui aiment ce jeu, avec les coachs de certaines équipes. Voilà. Je les remercierai d'ailleurs le temps venu pour proposer la meilleure formation qui soit sur Valorant. Voilà. Et je pense vraiment, c'est la promesse de cette formation. C'est une formation en 12 heures. Et l'idée, c'est que grâce à cette formation, dans laquelle vous trouverez des conseils que vous n'aurez nulle part ailleurs, que vous n'aurez vu ni entendu nulle part ailleurs. En 12 heures, je vous certifie que vous arrivez à un niveau de fou sur Valo, quoi. Voilà, c'est certifié. En ligne, c'est une formation en ligne ou en présentiel pour ceux qui sont en région parisienne. On vient de, vous allez voir le clip, on l'a tourné à La Défense. On vient d'investir dans des locaux, je sais pas combien il y a de centaines de mètres qu'on a pris, on est un peu foufou. Tu as testé la formation? Non, mieux, je l'ai pensé. Je l'ai pensé. J'ai pensé chaque ligne de cette formation. Ouais. Et voilà. Le prix, alors le prix, vous le découvrirez dans quelques jours parce qu'on va, on va. Là, pour l'instant, c'est l'annonce. Et dans quelques jours, on va tout vous dévoiler. Les différents modules, il y a différents modules. Les prix aussi, voilà. Je me suis inspiré des meilleurs, notamment d'un influenceur que j'ai rencontré récemment à Chypre, qui s'y connaît bien en la matière. Et donc, voilà, toutes les précisions à l'instant. Voilà. Est-ce que vous êtes prêt pour le clip? J'arrive pas. Non, c'est une vraie affiche, une vraie affiche. Non, c'est pas un montage. Ah non, non, non. Ah non, non, non. Mais en fait, c'est une campagne nationale, hein, qui va commencer dans les prochains jours. Et là, ce visage, ce beau visage-là, vous l'avez en France partout, hein, sur les culs de bus, dans les métros. Ça arrive là, c'est en prépa. Tout est imprimé déjà. Hein. Comment ça pour une fois qu'on voit Sam Grand? Il y a plus de cheveux. Ah, c'est une vraie photo, hein. Non, c'est une vraie photo. Ouais. Je vous montre que c'est une affiche. Hein. Ah non, on a bossé, c'est que le début. Hein. Les culs de bus, ça dit oui, les culs des bus, ouais. Enfin, l'arrière du bus, quoi. Ah oui, ça bouge. Est-ce que vous êtes prêt pour le clip? Parce que en voyant le clip, vous allez voir parce que je vois que certains rigolent. Là, nanana, vous allez voir le sérieux du truc. On a vraiment investi, quoi. Ok, vous êtes prêts? J'espère que tout est. Alors, le clip, je l'ai vu. J'ai vu que certains l'ont. Non, il a déjà été posté sur. Ça devait partir un peu plus tard. C'est pas grave, c'est parti sur Insta, sur TikTok. Normalement, tout est prêt de ce côté-là. J'espère que ça a bien marché. Attention. Prêt? 3, 2, 1, go!
Toi, oui, toi. N'as-tu jamais rêvé de faire partie des meilleurs?
Il n'y avait pas de son là. Il y avait du son ou pas? J'avais pas de son moi. S'il y avait du son? Pourquoi je l'ai pas moi? Attends, pourquoi je l'ai pas le son moi? Vous l'aviez le son? Moi je l'ai pas. Vous l'aviez? Donc on peut y aller? Oui, mais faible. Attends, c'est bizarre. Vous l'avez bien? Ok. Bon, on recommence alors. Ok. On y va, let's go.
Toi, oui, toi. N'as-tu jamais rêvé de faire partie des meilleurs, de l'élite de Valorant? Viens avec moi. T'en as pas marre de lancer des ranked, de perdre tes duels, de finir bottom frag? Moi aussi, ça m'est arrivé.
Oh, puis non, c'est bon, je m'en vais, allez, salut.
Enfin, quelques semaines à peine, hein. Mais ça m'est arrivé. Un matin, j'ai eu une révélation. La révélation.
Samuel Etienne!
Pourquoi ne pas créer ma propre formation pour celles et ceux qui veulent atteindre le plus haut niveau compétitif, les VCT, IMI? Ça n'est pas qu'une formation, c'est une quête initiatique validée par l'Académie du Gameplay, animée par le seul et l'unique, moi. Avec ma formation de loser, fini les clutches ratées, les flashs sur teammates, les ultimates dans le vide, je vous apprendrai à lurker, à bunny hop, à wallbang, à jump pick. Et surtout, ma technique secrète, la defuse furtive en 3 mouvements. 99% des personnes sont satisfaites de ma formation. Les 1% restants, des jaloux de ma réussite. Il est temps de prendre le pouvoir sur Valorant, comme 56% des joueurs VCT IMIA qui ont suivi ma formation. Rendez-vous le 1er avril à 17h pour en voir les résultats et inscris-toi. Je viens de voir tes scrims. Il n'y a rien qui va. Et sont où tes doubles satchels? Non, non. Il faut que tu refasses la formation.
Voilà. Donc ça c'est tout. C'est bon. Et là, c'est juste la vidéo vitrine. Hein. Vous imaginez le travail qu'il y a eu derrière pour monter tout ça. C'est une formation, c'est scientifique. On a vraiment, il y a les spécialistes de la pédagogie avec qui j'ai travaillé. Il y a des spécialistes de tout ce qui est acquisition de réflexes. Chaque page, chaque phrase est pesée. Enfin, il y a aucun conseil en l'air comme ça. C'est 12 heures de formation, mais chaque minute est d'une densité absolue, quoi. Tu suis sérieusement les 12 heures. Là, j'avais au téléphone à la fin, j'avais un gars qui avait fait la formation, mais en mode cool. Là. Tu suis sérieusement les 12 heures de formation. Tu deviens un monstre sur Valo, quoi. C'est scientifiquement bossé, quoi. La vraie question, c'est combien. Alors ça arrive dans quelques jours, parce que je voulais pas tout annoncer ce soir. Dans quelques jours, on vous donne tout, les détails, pour on pourra payer en plusieurs fois, parce que vous imaginez qu'il y a du travail derrière, hein. Il y a un suivi personnalisé, c'est-à-dire que vous avez avec la formation, vous avez accès à une hotline sur laquelle, avec mes conseillers, on répond à vos questions en direct sur le jeu. Donc voilà, donc c'est un certain prix. Enfin, tout produit de qualité a forcément un coût, quoi. Donc c'est payable en plusieurs fois. On est en train de travailler sur un financement par le CPF, ouais, bien sûr. C'est un partenariat avec Riot, avec Valo. Ouais. Ouais. Je prends le pass culture. Alors c'est en discussion. C'est en discussion avec le ministère de la Culture. Voilà, ils savent que je suis quelqu'un de sérieux. Voilà, donc on est en train de travailler sur tout ça. Pantouf dit, fier de toi, tu aurais dû plus céder à la facilité de lancer ton burger. Ouais, non. Ou autre junk food, un projet sérieux, inspirant, hâte de level up sur Valo. Vous serez pas déçus, hein. Vous serez pas déçus. On a vraiment énormément bossé sur ce projet, quoi. Voilà. Ouais. Non, non, c'est, ah non, pas pour être bronze. Ah non, 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 c'est une formation pour être. Ah non. Les élèves les moins doués. Tu pop gold, quoi, minimum, quoi. Mais non, non, l'objet de la formation, c'est de vous amener à un niveau pro. Un niveau pro. Alors, normalement, si vous appliquez vraiment chaque conseil de cette formation, c'est une formation en 12 heures, normalement, vous pouvez en vivre. Hein. L'idée, c'est que vous puissiez très rapidement proposer vos services à des équipes pro. Hein. Ce sera satisfait ou remboursé. Alors, il faut que je voie avec l'équipe d'avocats qui travaille sur le... Je ne sais pas où on en est, je leur avais demandé, mais on est en train de regarder. Là. Non mais Sam, dis-moi que c'est un poisson d'avril, par pitié, dis-moi que c'est un poisson d'avril, les modos sont dans le coup. Alors c'est pas très cool, parce que moi, là, il y a plus d'un an de travail, là. Donc c'est pas très sympa. En plus, on a fait attention à la date, 30 mars, pour que justement... Pour moi, c'est pas de la blague. C'est-à-dire que j'ai vraiment consacré du temps et de l'énergie, et il y a un gros investissement derrière. Là, les locaux que vous avez vus, c'est les locaux où j'ai tourné le clip, c'était les locaux que je loue. Hein. Là, il y a plusieurs centaines de mètres carrés à la Défense pour accueillir l'infrastructure. Et donc, la formation, alors la formation en ligne sera moins chère, mais la formation IRL sera un tout petit peu plus chère. Voilà. Et ce sera dans nos locaux. Dans nos locaux. Voilà. Tu es le coach principal de... Bah en fait, moi, j'ai toute une équipe qui va mettre en musique la formation que j'ai pensée, quoi. Ouais. Orjal, je travaille à la régie pub et je confirme qu'on est débordé par le nombre d'affiches à coller. Oui, mais enfin, Orjal, si je puis me permettre, justement, je pense que t'es un peu occupé. Fais passer le message à l'équipe, parce que y a un vrai enjeu, là. Donc tu as peut-être autre chose à foutre que d'être dans notre chat ce soir. Merci du message, hein, c'est adorable, mais si quelqu'un pouvait s'occuper des affiches, elles vont pas se distribuer toutes seules. Hein. Ouais. Combien elles coûtent ? Bah, justement, ça je vous le révèle dans quelques jours. Ça. Voilà. Là, je voulais juste vous présenter les grandes lignes. Voilà. Ah, le pins, oui. Oui, ah oui, il y a un pins, le pins là, il est offert avec la formation, tout à fait. Mais d'habitude, les gars qui proposent une formation, ils sont pas en peignoir sur la croisette. Alors non, pas, je me suis renseigné, parce que moi je connaissais pas le monde de la formation, vous imaginez bien, hein. C'est tout nouveau pour moi, hein. C'est la première fois que je propose une formation comme ça. Et en fait, je me suis renseigné, et en fait, parce que j'avais vu qu'il y avait des formateurs qui étaient en peignoir, je me suis dit, peut-être c'est un code, peut-être un truc, un peu un passage obligé. En fait, pas du tout. Hein. Non, non, c'est plutôt le signe d'une... D'après les gens que j'ai interrogés, qui sont des professionnels de la formation, c'est plutôt un signe d'incompétence. Non, non. D'où le costume. Le message envoyé, là, c'est qu'on est sur quelque chose de rigoureux, quoi. On n'est pas au bord de la plage à faire les margoulins, quoi. Non, non, là, il y a du... Là, derrière, il y a toute une équipe... Il y a toute équipe de comptables, de communicants... Voilà, du professionnalisme avant tout. Ouais. L'argent sera reversé à l'association. Ah non, 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 non. Ah non, l'investissement est énorme. Non, non, l'investissement est énorme. Là, il y a pas que du temps, il n'y a pas que l'énergie, il n'y a pas que de la passion. J'ai toute une équipe là. J'espère que ça va marcher. Hein. J'espère que ça va marcher. Parce que là, j'ai mis beaucoup de moi. Hein. Comprenez maintenant la fatigue de ces derniers mois, quoi, parce que tout ça était en secret, quoi. Non, non, bah non, j'espère un retour sur investissement, parce que là, sinon, je suis mal. Hein. Des pubs à la TV de prévu ? Non, alors c'est pas le public visé. Hein. Non, non, par contre, sur les chaînes Twitch de vos streamers et streameuses préférés, bah, il va peut-être y avoir un petit peu de clip, oui. Je compte surtout sur le bouche à oreille, hein, donc je compte un peu sur vous, notamment sur les premiers qui vont expérimenter la formation. Là. La rumeur s'est déjà un petit peu répandue dans le cercle de l'e-sport. Et donc, j'ai déjà de bons joueurs qui ne sont pas des joueurs pros qui ont demandé à tester en avant-première la méthode. Et les retours sont très positifs. Donc là, on leur a fourni gratuitement. Il y a des gens comme Weeper, effectivement, qui ont testé. Et là, les retours sont très positifs. C'est-à-dire que le grind de niveau, et ils m'ont dit, mais c'est fou, mais comment on peut progresser aussi vite? Bah oui, c'est en fait quand tu vas chercher les conseils là où il faut. Moi, je suis allé chercher les conseils auprès des meilleurs, si tu veux. Voilà. Donc là, en gros, un joueur débutant, il va arriver à un très très bon niveau très vite, mais un joueur qui a déjà des bases, pour moi, c'est nos limites, quoi. Ouais. Et Riot, ils ont pas peur que tu déquipes le jeu avec cette formation? Non, parce que Riot, ils misent quand même sur une scène compétitive. Hein, vous savez que, contrairement à certains jeux vidéo, la scène compétitive, Valo pour Riot, c'est très important, quoi. Et ils se sont dit, bah, plus il y a de joueurs potentiels, plus il y a de joueurs à très haut niveau, mieux c'est pour la scène compétitive de Valo, quoi. Moi-même, j'ai eu une expérience e-sport, vous le savez, à Berlin. On a vu des Riot sponsorise, ouais. C'est totalement fait en collaboration, en partenariat avec Riot. Mais vraiment. Alors, on voit pas là, mais c'est sur l'affiche en bas là. Je mettrai pas le logo Valorant sur l'affiche comme ça. Hein. Ça, c'est fait avec Valo. Hein. Et non, ils sont à fond parce qu'ils pensent que notamment sur les premiers marchés. Là, on vise le marché européen. Hein, on va commencer. Là, le logo, il est là en bas. Là. Alors, je vous montre, ils y croient pas.
Ah bah oui ! Ah bah oui ! Eh oui !
Mais oui, oui, mais c'est avec... Mais oui ! Mais oui ! Mais bien sûr, mais c'est officiel, c'est un peu une formation officielle. Et donc, on vise le marché français et européen pour commencer, puis après, on va voir. Est-ce que c'est du présentiel ? Tu vas proposer du distanciel ? Alors, la base de la formation 12 heures, c'est que tu peux la faire en distanciel, mais... On peut la faire aussi en présentiel, mais c'est plus cher. C'est plus cher. Après, sur place, c'est une journée. Hein, c'est une journée. C'est du 8h-8h. Hein, c'est du 8h-20h. 12h, non-stop. Il y a des petites pauses. Donc, je pense que c'est. En gros, tu arrives le matin à 7h30. Tu vois, il y a un premier briefing. 8h, les choses sérieuses débutent. Tu n'es pas libéré avant 23h, en vrai. Voilà. Mais comme le dit Sugar, c'est une journée pour changer sa vie. Hein. Et il y a un plateau repas le midi et tout, enfin, vous êtes bien, hein. Voilà. On est en train de tout bien préparer pour accueillir la première promotion bien, quoi. Je sens que je vais être plus fort grâce à cette formation. Bah, Biou, tu peux signer les yeux fermés, en vrai. J'ai ma carte bleue qui tient plus. Alors pour l'instant le site est prêt, hein, le site est opérationnel. Voilà, on va le lancer dans les prochains jours là. Ça va être incroyable. Voilà. Est-ce qu'on on va attaquer la revue de presse? On est très fiers du clip de promotion quand même. Est-ce qu'on se lance le clip une dernière fois? On se lance le clip une dernière fois et puis on enchaîne avec la revue de presse? Ça vous va? Pour ceux qui n'ont pas vu le clip? Parce que ça a été une journée de tournage, le clip, hein. Allez, le clip. Je vous mets le clip une dernière fois. Ok? Let's go.
Toi, oui, toi, n'as-tu jamais rêvé de faire partie des meilleurs, de l'élite de Valorant? Viens avec moi. T'en as pas marre de lancer des ranked, de perdre tes duels, de finir bottom frag? Moi aussi, ça m'est arrivé.
Oh, puis non, c'est bon, je m'en vais, allez, salut.
Enfin, quelques semaines à peine, hein, mais ça m'est arrivé. Un matin, j'ai eu une révélation. LA révélation.
Samuel Etienne!
Pourquoi ne pas créer ma propre formation pour celles et ceux qui veulent atteindre le plus haut niveau compétitif, les VCT, IMIR. Ça n'est pas qu'une formation, c'est une quête initiatique validée par l'Académie du Gameplay, animée par le seul et l'unique. Moi, avec ma formation loser, fini les clutches ratées, les flashs sur teammates, les ultimates dans le vide, je vous apprendrai à lurker, à bunny hop, à wallbang, à jump pick. Et surtout, ma technique secrète, la defuse furtive en 3 mouvements. 99% des personnes sont satisfaites de ma formation. Les 1% restants, des jaloux de ma réussite. Il est temps de prendre le pouvoir sur Valorant, comme 56% des joueurs VCT IMIR qui ont suivi ma formation. Rendez-vous le 1er avril à 17h pour en voir les résultats et inscris-toi. Je viens de voir tes scrims. Y a rien qui va. Et sont où tes doubles satchels? Non, non. Il faut que tu refasses la formation.
Voilà. Alors, il y a une petite imprécision dans le clip quand même. Je viens de voir Radian remboursé. Alors là, c'est pas. Pardon. Alors ça, c'est pas validé avec les équipes juridiques. Alors c'est gold ou remboursé pour les gens qui n'ont jamais touché au jeu, quoi. C'est Radian ou remboursé pour les gens qui ont une petite expérience du jeu. Voilà. Donc là, au moment de l'inscription, il faut le préciser. Alors c'est pas le même prix d'ailleurs. Bon, vous verrez ça dans le détail dans quelques jours. Mais alors c'est Radian ou remboursé si tu as une expérience du jeu, quoi. Si t'as jamais lancé le jeu, en 12 heures, t'es gold. Voilà. Là, oui. Sinon, t'es remboursé. Si t'as un peu d'expérience sur le jeu, faut pouvoir le prouver, hein, avec ton compte Riot. Faut pas se faire arnaquer. Si t'as un petit peu l'expérience du jeu et que tu passes pas Radiant en une douzaine d'heures avec la formation, t'es remboursé. Voilà. Mais on va rien rembourser du tout, hein, parce que c'est garanti, quoi. Ouais. Camille me dit les VCT IMIA commencent bien le 1er avril à 17h, j'ai vérifié sur le site de Riot. Oui, bien sûr. Ah non, mais le alors il se trouve, moi je l'aurais dit Riot, je l'aurais dit, les gars, vous lancez la nouvelle saison VCT le 1er avril, ce qui est vrai, vous pouvez aller voir sur le site de Riot, j'aurais dit faites gaffe parce qu'il y a un monde où les gens vont croire que c'est une blague. Donc ils ont dit ah oui, mais c'est pas grave, de toute façon on va la lancer avant. C'est pour ça qu'on a fait ça le 30 mars. Pour que les gens comprennent bien que non, c'est très sérieux, quoi. Hein, pourquoi, a priori, le site devrait être lancé avec toutes les précisions, notamment le coût, tout ça, le 1er avril. Seulement, c'est le début de la nouvelle saison VCT IMIA, quoi. Voilà. Vous savez tout. Voilà, les amis. Je vais ranger mon affiche. Je vais refaire le plan aussi, parce qu'en fait, du coup, j'ai modifié mon plan. Hein, parce que l'affiche était trop grande. Je leur ai dit, les gars, l'affiche est trop grande. Ils me disent, ben non, c'est le format. Voilà. Je suis en train de craquer, je commence à y croire. Mais non, mais je suis un peu peiné par contre, parce que je vois que vous n'êtes pas très nombreux, mais il y a deux ou trois qui disent, ah, j'y crois pas, c'est un scamuel et tout. C'est pas parce qu'une fois, je vous ai fait un scam aux The Event. Sur je vais courir tout nu derrière les streamers, ce que j'ai fini par faire d'ailleurs. Alors, donc c'était pas tant du scam que ça. Une chose, moi je tiens toujours mes promesses. Hein. Et donc voilà, il y a eu un scam, et encore. Donc là, il y a zéro scam. Hein. Là, voilà. Moi, c'est vraiment. J'ai mis tout mon cœur dans cette histoire. Il y aura un code promo, bien sûr. Pour la commu, ouais, je vous le mettrai ici. Et nulle part ailleurs. Merci Kigon pour le 27e mois. Tous les gens qui sopent ce soir, il y aura un code promo. Best of Big Mac, merci beaucoup pour le 3e mois. Merci Teweli pour le 24e mois. Merci Esadora Breville, merci pour les soutiens. Merci Ngabs, merci Lenia, merci c'est adorable. Vous aurez tous des codes promo de fou, hein. Tous les gens qui... Alors il y a deux codes promo, il y a le code de promo pour la commu, il y a le code promo pour les subs. C'est normal qu'ils aient un peu mieux. Quoi. La biche du gaming, tu régales, merci pour le 12e mois. Merci pour tout petit dams. Merci pour le 10e mois. C'est adorable. Code promo de combien? Bah vous verrez, on dévoile tout dans quelques jours. Voilà. Bon, je vais ranger mon affiche. Voilà. Sachez que vous retrouvez ce clip sur Instagram et sur TikTok, hein, sur mes comptes. Voilà. Et on vous en dit plus dans les prochains jours. Voilà. Tu dois tenir combien de temps avant de te mettre à rire? Non, non, mais Rex, c'est... Tu le dis pas méchamment, mais c'est hyper blessant parce que j'ai beaucoup bossé sur ce truc. Hein. Alors oui, alors ok, je veux bien reconnaître que mon niveau à moi est pas toujours impressionnant, et encore, vous voyez pas toutes mes parties, hein. Je montre pas tout. En fait, ma démarche, c'est pas les conseils de Samuel, quoi. C'est ma formation que j'ai élaborée avec des spécialistes, quoi. Comprenez bien que dans cette formation de 12 heures, c'est pas que des conseils de Samuel. Moi, je suis allé voir les meilleurs, quoi. Les meilleurs joueurs, les meilleurs coachs, certains des meilleurs streamers, vous les connaissez certains. Et en fait, c'est la compilation de ces conseils, validés par des gens qui connaissent parfaitement le jeu, qui fait qu'à la fin, vous avez un outil, c'est garanti, quoi. Pauline me dit, j'aimerais avoir l'affiche dans ma chambre, possible. Vous allez en avoir partout dans quasiment toutes les villes. Servez-vous. Hein. Ouais. Mais du coup, si tu suis ta propre formation, tu devrais aussi, toi, être minimum platine avec ton temps de jeu. Oui, mais alors je manque de temps pour jouer, moi. Hein, attendez. À un moment, il ne faut pas tout mélanger. Un grand entraîneur, un grand sélectionneur. Je pense à Zidane là, qui va prendre. Je me compare pas à Zidane, hein. Enfin bon, quoique là, peut-être sur Valo, peut-être. Mais Zidane qui va prendre bientôt la direction de l'équipe de France, on lui demande pas de jouer. Ah non ! On lui demande de coacher. On lui demande de conseiller. Bon, bah voilà. Donc, on est un peu sur la même démarche, quoi. Voilà. Donc, ne confondez pas tout. Moi, je suis allé voir les meilleurs. Je suis allé voir les meilleurs. Bon, je vais ranger mon affiche. C'est bon. Je range mon affiche. Hein.
Elle est belle, hein? Elle est très grande, hein? Elle est très grande, hein?
Je refasse mon cadre parce que du coup j'ai dû faire un nouveau cadre. Eh oui.
Alors attends. Voilà. C'est quoi? C'est un écran qui est à droite? Non, c'est l'affiche qui nous embête là. Voilà. Un petit peu de tape, pas trop. C'est pas mal là.
J'ai refait mon cadre vite fait. Voilà. Alors là, j'ai mis l'affiche devant l'entrée des toilettes. Comme ça, ça m'évitera peut-être des incidents. C'est pas rien, c'est du boulot de devenir formateur. Voilà. Ah, merci en tout cas de votre attention. Hein. Voilà. C'est satisfait ou remboursé. Hein. Ça sort quand? Ça sort dans les prochains jours, là. Merci de votre attention en tout cas. Merci les amis. Alors, comment ne pas être surpris par l'annonce qui vient d'être faite? On le voit de haut de mon écran, ouais. C'est celui-là que tu vois? Ah ouais. Ah, il faut que je rapproche le truc, bouge pas. T'as raison.
Eh oui, c'est les mails, on bouge tout alors. Vous me voyez? C'est bon là, il n'y a plus d'écran? Ah non, c'est bon. Merde! Là, on voit l'écran. Ah, c'est bon.
C'est bon là? C'est mieux là. On voit le pied du micro? Ah oui, bah tout, on a toujours vu le pied du micro. Hein. Ton zizi dépasse un peu? Bah, c'est des fantasmes ça. Je vous rappelle que si quelqu'un est en capacité de m'envoyer une photo de mon zizi prétendument exposé sur internet, c'est 10 000 balles. Je vous envoie 10 000 balles. Ah merde! Bon, faut que je fasse mes réglages. Je sais pas. Merde, j'ai tout pété.
Là, c'est bien là. Là. Là.
Là, c'est bien là. Ah. Ah, c'est pas mal. Ah non, on retrouve notre 4 d'avant là. Ah. Exacrus dit c'est systématiquement con, mais c'est toujours inattendu. Tu parles de mon contenu là? C'est vachement de travail, hein. Vous vous rendez pas compte le taf que c'est, vous? C'est dingue ça, ce manque de respect là. Bon, alors c'est quoi cette histoire de. Pour le coup, moi je suis très sérieux là sur mon histoire là, de formation. Vous verrez dans les prochains jours, vous ferez moins les malins, hein. C'est dingue ça, c'est fou ça. Des gens m'ont dit tout à l'heure que Monsieur Alloncle, le rapporteur de la commission, avait présenté ses excuses au début d'une audition aujourd'hui. Les excuses que je lui ai demandées. Ça c'est une blague ça. C'est une blague ou pas? Parce que je suis au courant de rien. Et j'ai rien vu sur les réseaux. C'est une blague non? Parce que j'ai effectivement envoyé un mail à la commission pour que la commission fasse transmettre ce message à M. Alloncle de présenter ses excuses suite aux fausses informations qu'il a fait diffuser, la diffamation qui en est résultée. Et les gens des gens m'ont dit tout à l'heure que en propos liminaire, dans une audition, il avait présenté ses excuses que j'ai demandées. Est-ce que c'est vrai, ceux qui m'ont donné ces infos? Et auquel cas, est-ce qu'on peut aller les voir? Est-ce que vous pouvez me préciser dans quelle audition, quoi? Ceux qui m'ont donné cette info tout à l'heure. Non? Mais qui m'a dit ça tout à l'heure? Vous étiez plusieurs à me le dire, c'était une vanne? Non, c'était une vanne que vous m'avez faite? Non, c'est pas... Kiné, tu rigoles, mais c'est pas... Ah, c'était... Putain, c'était une vanne! Ah non, mais c'est pas drôle, parce que pour le coup, c'est hyper sérieux. Moi, si j'ai pas d'excuses dans les prochains jours, je relance. Hein. Ah, c'était une vanne. Oh non. J'y ai cru, parce que c'est quelque chose que je demande, que j'attends avec impatience, quoi. Ok. D'accord. Ah, moi, j'y avais cru, ouais. Ah, c'est pas drôle, en vrai, parce que... C'est quoi l'histoire? Ben, l'histoire, c'est que j'ai envoyé un document avec dans un mail à la commission de l'Assemblée nationale sur du viol public il y a quelques jours en demandant que soit transmise à monsieur, à l'oncle, ma demande qu'il présente des excuses publiques pour fait de propagation de fausses nouvelles et diffamation. Gaffe à être sérieux là-dessus, vu que ça peut partir très loin cette histoire, il y a une durée limite avant d'agir. T'inquiète, je suis tout à fait au courant des délais. C'est 3 mois. T'inquiète. C'est pour ça que j'attends ses excuses. Bon. Bon, eh ben on a l'occasion d'en reparler. Ok, bon, la bonne nouvelle, c'est que du coup, on va pouvoir passer à la revue de presse. Vous inquiétez pas, je bosse sur le sujet. Bon, est-ce que vous avez passé, avant qu'on passe sur la revue de presse, est-ce que vous avez passé une bonne journée? Est-ce que le début de semaine se passe bien? Ok. Dark Samu? Non, gentil Samu, mais faut pas le chercher, quoi. La gentillesse n'est pas la faiblesse. Et en fait, le problème des gens qui ne comprennent que la violence, c'est qu'ils pensent que la gentillesse, c'est la faiblesse, alors que ça n'a rien à voir. Moi, je suis un gentil, mais quand on vient me chercher des noises, on me trouve très très vite, en fait. C'est ce qui va se passer. D'ailleurs, on m'a dit que Patrick Sébastien, ça aussi, c'était une vanne, elle allait être entendue ou pas? Gros lundi, fatigué, c'est dur le lundi, hein. Usine en redressement judiciaire bientôt, Wergas, force, force, force. Arrivé aux urgences à 3h du matin pour être pris en charge à 23h. Quoi? Akita, t'es arrivé aux urgences à 3h ce matin? À 3h du mat, t'étais pris en charge à 23h? Sérieux? Il passe demain, je crois, c'est pas une vanne? Ok, bah on sait déjà quelle audition on va se faire en React cette semaine, quoi. Patrick Sébastien, en audition devant la commission. Oh la régalade. Il y a une grosse prog pour les auditions à venir, il y a tout dans le planning, on va aller voir. Patoche, incroyable. 900 euros de facture vétérinaire un peu mal derrière quand je marche depuis. Mais attends, je comprends pas, il raisonnait. T'es allé voir un vétérinaire parce que t'avais des problèmes au dos ou des hémorroïdes ou un truc comme ça, mais faut pas aller voir un véto. 900 euros de facture vétérinaire un peu mal derrière quand je marche depuis. Mais pourquoi t'es allé voir un véto? Faut aller voir un médecin. Enfin, si c'est des problèmes de reins ou de... Enfin, les vétos, il y en a des très bons, mais... Waouh, je suis hyper inquiet, en fait, Erzounet. Tu devrais plutôt aller voir un médecin, hein. Moi, je pense, hein. Je bosse depuis 6h ce matin sur un gros appel d'offres, je suis fatigué. Lulu Suisse, force. On t'envoie de la force. Semaine de tendinite à l'épaule. Oh là là, dis donc, c'est que des mauvaises nouvelles, là. Mais oh, mais pauvre chou, merci de saluer le Kier. Oh, Imzo, les problèmes avec la caisse, c'est chiant ça, en vrai. Putain, la règle a une... Hey, on s'est régalé avec Bolloré, on a fait une... Vous l'avez en React, on a React, le passage de Vincent Bolloré devant la commission. Je m'attendais pas à ça, hein. C'est 2h30. Salut, Joe. Ah bah, Joe, je viens de me montrer le clip, tout ça, là. Les gens attendent l'information avec impatience, hein. Il y a 2-3 plaisantins là, qui pensent que c'est une vanne. Ils vont moins faire les malins quand ils vont voir leurs petits collègues leur rouler dessus parce qu'ils auront suivi la formation de 12 heures de Papy Sam. Hein. Je leur ai expliqué ça. Et donc oui, on a fait le react de Bolloré ce week-end. Mais c'est 2h30. Tu te fais pipi dessus de rire. J'ai croisé d'autres gens aujourd'hui qui m'ont parlé de cette audition, qui l'avaient vue. Mais c'est le... C'est fou comment disons-le, allez, vous dire les termes, ici on est sur Twitch, il les roule dans la farine, quoi, hein. Bolloré, il a pris la commission, il a mis sur un plan de table, voilà, il a mis la farine et il a roulé. Incroyable. C'est vraiment alors je suis pas sûr que Patoche soit à la hauteur. Mais il est fort, hein, il est fort le Vincent Bolloré. Hein. Merci Polar pour le soutien. Merci Xivor. Merci Pinky. Merci Sexies. Merci encore Turin Tarambar. Nagui aussi. Nagui aussi, ça va être intéressant. Ouais. Merci Sam Cook. Merci Archange. Ah oui, la caste, la fameuse caste. Ah oui, la caste, c'était bien ça. Incroyable. Attendez, on va aller voir. On va aller voir quand c'est Patoche. Pas raté ça. C'est quand Patoche? Commission. On va voir. Ça, c'est quoi ces infos? Commission. Tiens, article du Parisien. Commission d'enquête sur le visuel public. François Hollande, Nicolas Sarkozy ont refusé de se présenter. Ouais, je crois qu'en tant qu'ancien président, ils ont le droit de refuser, eux, d'ailleurs. Dernière ligne droite. Tiens, c'est dans le Parisien. Je l'avais pas dans le PDF, celui-là, il vient de sortir. Dernière ligne droite pour la commission d'enquête sur la neutralité du visuel public. Enfin, pour la neutralité, le financement et l'indépendance, précisément. Après avoir organisé une soixantaine d'auditions depuis la fin novembre. Ouais, certains plus drôles que d'autres. Hein. Les parlementaires s'apprêtent à recevoir entre le 31 mars et aujourd'hui le 8 avril prochain les dernières personnalités convoquées pour éclairer leurs travaux. Ah, on a le programme là. De 31 mars 14h, c'était aujourd'hui, c'est demain ça. Ils vont recevoir les anciens directeurs de l'information de France Télévisions et Radio France, d'Arlette Chabot à Thierry Tulier. En passant par Laurent Guimier et Jean-Philippe Baye. David Pujadas également. Ok. Patrick Sébastien. Ah, c'est une table ronde. Ah, non, c'est pas diffusé ça. C'est pas la même chose, Patrick Sébastien, c'est une table ronde. Je suis même pas sûr que ce soit diffusé. Ouais. Normalement, c'est pas, c'est les trucs, les séances plénières là. Ouais, je crois que les tables rondes ne sont pas diffusées. C'est diffusé? Vous êtes sûr? Regarde, si on fait ça, on peut les voir. Hein. Regarde. Regarde, ça c'est le site officiel de la commission. Là, vous avez les archives des réunions. Ouais. Et en fait, ah, table ronde. Ah oui, regarde, 26 mars. Ouais, les tables rondes, il n'y a pas de vidéo. Voilà, là, tu as une audition vidéo. Là, attends. Audition, vidéo. Audition, audition. Ouais, je sais pas, on va voir. À voir, à voir. À voir. Ce serait intéressant de voir, en tout cas. Patrick, j'ai dit Patrick Bruel. Patrick Sébastien, s'il passe, on regardera. Ouais. Jacques Cardoz. Jacques Cardoz, l'ancien de complément d'enquête, embauché par Cyril Hanouna, qui a promis une enquête sur complément d'enquête, qui est jamais sortie. Jacques Cardoz, invité de la commission. Ok. Michel Drucker. Ok. Nagui. Le jour suivant. Okay. Le 1er avril, Nagui. C'est tendu entre Monsieur Alloncle et Nagui, non, normalement. Bon, on verra ce qui existe, toi. Ouais, et on aura Delphine Arnaud le 8 avril, qui bouclera, parce qu'elle a déjà été entendue, la présidente de France Télévisions. Ouais, ensuite, interviendra la phase de rédaction du rapport final. C'est monsieur Charles Alloncle qui va écrire le rapport. Date de rendu prévue le 23 ou le 24 avril. Donc il aura 15 jours pour écrire son rapport. Rigolez pas, c'est fait, c'est avec votre argent, hein, c'est de l'argent public. Hein. Ce texte devra ensuite être adopté par les membres du groupe de travail, ce qui n'est pas acquis pour être publié. Moi je fais le pari que le rapport sera publié. Je fais le pari que, comme si jamais le rapport n'est pas publié parce que n'est pas jugé de qualité suffisante par les autres membres de la commission, comme ils savent que M. Alloncle clira la censure, ils sont coincés et je pense qu'ils vont voter le rapport. Moi, c'est le pari que je prends aujourd'hui, c'est-à-dire que contrairement à ce que disent certains, le rapport sera voté et publié. Je peux me tromper, hein, c'est un pari que je fais. Hein. Ok. Bon, à suivre, en tout cas, il n'est pas possible qu'on fasse des règles dans les prochains jours. Les commissions se suivent. Attention, Samuel Etienne, tu risques d'être convoqué au Sénat comme Jean Massier, commission d'information sur la régulation de l'information dans l'espace numérique. T'inquiète, on ira, ça nous fera des réacts. L'audition de Patrick devrait être diffusée, je pense, dit Quentin. Tu l'appelles Patrick, toi? C'est ton tonton ou quoi? Oh oui! Salut Alex, ton papa, oui, adorable. J'ai eu plein de candidats de questions pour un champion aujourd'hui et je vois que maintenant j'avais le papa d'Alix Lat dans le chat, marathonien. Très sympa. Celui qui s'est mis à la course à pied sur le tard, c'est ça? Et qui a des résultats impressionnants. Et en même temps, on a parlé de plein d'entraînements tous les deux. Ça court, hein, ça s'entraîne. Merci Kiné22. Super. Bon, les amis, on va y aller. Me faire un petit café. Avec Patoche, vous avez au moins un point commun? Lequel? Je vous mets le sommaire. T'as des candidats de questions pour un champion qui te connaissent pour ta chaîne Twitch? Tous les candidats de questions pour un champion connaissent ma chaîne Twitch. C'est rigolo d'ailleurs. Ouais, l'article du Figaro, je l'ai mis sur les podcasts. Super. Bon, on va y aller, les amis. Ok, on y va? Tu vas mettre la rediffusion du live? Oui, tout est rediffusé toujours. Salut, Château Lardon. Merci, Archange. Allez, go. C'est parti. C'est quoi cette histoire de formation Valo? C'est ma formation que je lance. T'as tout sur les réseaux, j'ai tout mis sur TikTok et Insta. Je lance ma formation Valo, ça va être une dinguerie. Est-ce que vous êtes prêts pour le sommaire? On y go? J'ai pas fait un point d'exclamation formation, je vais le faire de toute façon. Ouais, il faudrait que je renvoie sur mon Insta en fait. Je vais sur Insta. Attends, ça va être plus simple, parce que comme vous êtes nombreux à demander. Voilà. Hop, je vais faire un petit bot formation. Comme ça, tout le monde aura les infos sur ma formation Valo. J'aurais dû y penser, hein. Timer, commande, point, new commande, l'informaticien. Formation. Ma formation Valorant. Je mets en capital quand même. Ma formation. Valorant. Garantie radiant. En 12 heures. Garantie radiant, si vous avez déjà une base sur le jeu, hein, que vous devez pouvoir prouver avec votre historique Riot, quoi. Sinon, c'est gold. Garantie rayon ton 2 € remboursé. Voilà, vous avez le. Si vous faites point d'exclamation formation, vous avez accès au clip. Voilà. Attends, je vous la mets, je vous la mets. Enfin, je vous la mets en tout bien, tout honneur. Ma formation Valorant, garantie radio en 12 € remboursé. Voilà. Allez-y, point d'exclamation formation. Là, vous avez tout. Normalement, elle est en place, là. Ça y est. Allez-y. Non, ça marche pas trop. Non, ça va marcher. Ça marche pas? Merde, ce que j'ai fait comme connerie encore. Non, ça marche pas. Qu'est-ce que j'ai cassé encore, moi? J'ai tout cassé ou quoi? Ah, le user level? Ah, peut-être, ouais. Ah, ouais. Ah, c'est cassé. Voilà. Et everyone, allez-y, allez-y, update, update. Point d'exclamation, formation. Et bim, c'est parti. Là, vous avez le clip. Ok, super. Yes. Ok. Prêt pour un sommaire, les amis? On y va, je vous dis ce qu'il y a dans, le... dans l'actu. Non, le site est prêt dans quelques jours. Go! Allez, on va dire bonjour à nos amis qui nous écoutent aussi en podcast audio. Je me mets bien là, voilà, bien au milieu. Allez, go! Et mon café, oh, je le lancerai tout à l'heure pour le sommaire. 3, 4. Je mets le sommeil. Et on part sur le sommeil. Bonsoir à tous! Bienvenue non pas dans la matinée Étienne, mais dans la soirée Étienne. C'est un peu bizarre de dire bonsoir à tous pour la revue de presse, mais voilà, en ce moment on est empêché par une semaine de tournage de questions pour un champion, la semaine dernière 4 jours, cette semaine 3 jours, lundi, mardi, mercredi, donc je ne peux pas être avec vous le matin, donc pour qu'il y ait quand même une revue de presse, et bien je suis là tous les soirs, à partir de jeudi matin on reprend l'horaire normal. Donc, merci d'être là. La matinée Étienne, qui est une soirée Étienne, donc l'essentiel de l'actu, 2-3 heures de discussion sur l'actualité à partir des journaux. On passe en revue l'actualité et on en parle et on échange et on débat ensemble. C'est depuis 5 ans sur Twitch, tous les matins, c'est en replay sur YouTube. Merci à ceux qui sont là en live sur Twitch ce soir, merci à ceux qui vont nous écouter en replay sur YouTube et en replay sur les podcasts audio parce que vous êtes très nombreux à nous écouter en podcast audio sur toutes les plateformes de podcast depuis la rentrée, les Spotify, les Deezer, les Apple Podcasts. Merci beaucoup. Et on commence par le sommaire, comme toujours, comme ça, en 5 minutes, vous avez, même si vous ne pouvez pas rester avec moi pendant toute la durée des 2-3 heures, là, vous avez l'essentiel de l'actu. C'est parti. De quoi on va parler? Vous avez le sommaire sous les yeux. On va évidemment revenir sur le conflit au Moyen-Orient avec plusieurs infos. D'abord, la question d'une opération terrestre américaine ou pas sur le sol iranien, notamment dans certaines îles. Dans la région du détroit d'Ormuz, et on a un joli papier dans Libération assez complet sur les risques et périls d'une opération terrestre en Iran malgré des négociations en cours. L'administration américaine renforce son dispositif militaire et envisage des options terrestres délicates, c'est le moins que l'on puisse dire, de l'île de Kharg au détroit d'Ormuz qui pourrait entraîner une dangereuse escalade. Donc on a un papier dans Libé assez complet là-dessus. On a un édito aussi dans le Figaro que je trouve intéressant. On est peut-être au tournant de la guerre. Alors, vous allez me dire encore Libération sur le sujet suivant. Ouais, mais pas, c'est, alors, on va reparler de l'Iran, mais pas seulement. C'est un dossier dans Libé que je trouve passionnant sur les conséquences de l'arrivée de l'IA sur les conflits militaires. IA, la guerre en mode automatique, Ukraine, Gaza, Téhéran, permettant davantage d'autonomie et une plus grande vitesse d'exécution, le recours massif à l'intelligence artificielle par les armées interroge le rôle des validations humaines. Voilà, et donc il y a un dossier hyper intéressant sur les nouvelles formes de guerre et la question de savoir si l'humain est toujours le décideur des frappes militaires ou si c'est pas l'IA qui prend de plus en plus la main. Dossier dans Libération là-dessus. Alors depuis quelques jours, Le Monde, le journal Le Monde a lancé une série mais passionnante, je trouve. Hop. Une série passionnante sur les gourous de l'IA, c'est-à-dire, comprenez, ceux et celles qui président ou destinent de l'intelligence artificielle dans le monde, notamment parce qu'elles sont à la tête des sociétés qui lancent ces IA. Et c'est autant de portraits et de visions différentes de l'IA. Donc on en a vu déjà quelques-uns, on est à l'épisode 4 sur 9 de cette série dans le monde. Et là on a un portrait de Fei Fei Li, hein, qui plaide, elle, pour une IA centrée sur l'humain, voilà, selon cette informaticienne, qui est Est-ce qu'elle est américano-chinoise? Ouais, sino-américaine, c'est ça? La technologie doit aider l'humanité et non la remplacer. Voilà. Donc, du coup, grosse page IA dans la revue de presse de ce soir. Alors, moi, je ne savais pas, enfin, ou alors j'avais oublié, il y a un prix du meilleur jeune économiste chaque année. Et là, c'est Adrien Bilal. Il est français ou pas d'ailleurs? Je ne sais même pas. Je ne sais pas poser la question. Ah oui, qui a l'air français. Et qui vient de désigner meilleur jeune économiste de 2026. Voilà. Donc on verra un petit peu son parcours. Mais surtout, on se penchera sur ses travaux. Puisque Adrien Bilal a notamment développé un modèle permettant de mieux capter les impacts globaux des changements climatiques sur l'économie mondiale. Et il a pondu une étude selon laquelle le réchauffement climatique va coûter 50% du PIB d'ici à 2100. Les chiffres sont tellement énormes que lui-même ne voulait pas les croire au début. Voilà, il a mis tout ça un peu en open source pour que tout le monde puisse vérifier la rigueur de ses travaux. Et c'est assez fascinant. Alors tout le monde sait que ça va coûter beaucoup plus cher à l'humanité de ne pas traiter le sujet du réchauffement climatique. Voilà. Que les économies faites en ne s'occupant pas sont ridicules par rapport à ce que ça va coûter. Eh bien, Adrien Bilal, avec ses travaux, le démontre d'une façon clinique. Bilal la poule. J'ai pas la ref. Bonsoir, sous le nom de Bilal était écrit professeur assistant à l'université de Stanford, c'est pas au Royaume-Uni, je crois que Stanford c'est plutôt aux États-Unis. C'est juste que le gars, il a été prof dans les plus grandes facs américaines en fait. Voilà. Professeur assistant à l'université de Stanford, donc c'est pas en Grande-Bretagne, c'est en Californie, formé à Paris et à Princeton. Voilà. Donc voilà, il donne des cours un peu partout quoi. Donc on se penchera sur cette étude. Et puis un papier qui nous emmène sur la Lune. Bienvenue en 2036, dans le Parisien, au cœur de la station lunaire. La NASA, donc l'Agence spatiale américaine, a présenté la semaine dernière son projet de développement d'une base habitée sur la Lune. Ça pourrait être dès 2036. Les spécialistes nous disent, non, ce sera sûrement pas 2036, ça aura forcément du retard comme toujours en matière spatiale. Voilà, défi proche de la science-fiction qui pourrait devenir réalité, le papier. Et GG, arrête de spammer. GG, si je te réponds pas, c'est que c'est une bêtise. C'est pas l'ENS en photo? Ah oh là là. Voilà. Oh, les spammeurs. GG, bordel. Voilà, c'est Stanford. Faut arrêter de vouloir la France partout. C'est un beau pays, hein, c'est de la France, on est d'accord. Hein. Mais arrêtez de vouloir absolument mettre de la France dans tout. Le gars est français, mais bon, là, il est à Stanford. Voilà. Donc on ira sur la Lune. Voilà. La Lune, c'est pas en France non plus, hein. Voilà. Le but, eh ben, on se penchera sur ça, qui n'est 22. Voilà. Et puis, alors ça, c'est la commu, et je crois que c'est Camille, si je dis pas de bêtises, c'est Pépin Camille, qui m'a signalé cet article, qui effectivement est paru aujourd'hui dans le Figaro, sur le grand virage vers la vidéo qui chamboule l'univers des podcasts. Ah Camille, c'est toi, hein? Voilà. Camille, je vois que tu es une lectrice comment on dit? Attentionnée? Non, une lectrice attentive de la presse, parce que tu me signales souvent des papiers. Voilà. Et là, on a un article qui est assez intéressant sur l'univers des podcasts audio, comprenez, et chamboulé un peu par l'arrivée de la vidéo, avec de nombreux podcasts audio qui se transforment en podcasts vidéo. Moi qui découvre l'univers du podcast audio, c'est une question que je me pose, c'est la différence entre un podcast audio et une vidéo YouTube, quoi, par exemple. Voilà. Peut-être qu'on pourra avoir cet échange ensemble. Média audio, le podcast est en train de muer vers l'image sous l'impulsion de YouTube. Hein, une révolution tellurique pour cette industrie. Voilà. Puis après, j'ai une très belle histoire aussi d'un cheval, d'une hypersensibilité qui vient au contact des malades, notamment des cancéreux. Magnifique. Mais je vous l'ai mis de côté pour la revue des bonnes nouvelles de samedi prochain, parce que samedi, il y aura une revue de presse des bonnes nouvelles. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce petit sommaire du lundi soir? Ça vous plaît? Ça vous va? Merci, gros Dogo. Ça a dit quoi surtout? Ça a dit quoi surtout? Il est alléchant? Ok, super. Je vais me faire un petit café. On est chaud parce que là, la journée a commencé tôt et elle commence encore plus tôt demain. Demain, on enregistre cette émission. Patrick Beau. Ouais, masterclass. Salut Maël. Ok, on fait ça? Allez, je me coule un espresso. Et puis on démarre cette revue de presse. C'est bon, le café cool. Le café cool. Mais qui boit du café à 21h ? Ben moi, sinon je vais jamais vous faire la revue de presse. Sans compter que, après cette revue de presse, j'irai lire les journaux pour demain soir, bien sûr. Mais qui... Ouais. J'ai loupé le coche. Pourquoi la revue de presse est le soir maintenant ? Parce qu'il y a question pour un champion en ce moment, mais que jusqu'à mercredi. Ok ? Vous entendez cette petite musique du café qui coule ? Quelle est... Connaissez-vous musique plus douce que le café qui coule ? Vous entendez au loin cette petite vibration, cette petite compression là ? Vous entendez ou pas ? C'est loin. Hein ? Vous le sentez ? C'est super bizarre ce que je viens de faire comme move là. Quelle meilleure heure que 21h pour boire un café. Merci, c'est Lardon. Let's go. Allez, premier sujet. Évidemment qu'on va commencer par la guerre au Moyen-Orient. Voilà, avec cette question notamment, est-ce qu'on va vers une opération terrestre ? Alors c'est ça qui est un peu bizarre en ce moment, c'est que d'un côté on a Trump qui affirme qu'il y a des négociations en cours avec l'Iran. Et du coup, les marchés financiers semblent réagir positivement à ces nouvelles, parce que ça pourrait annoncer une fin de guerre bientôt. Je ne sais pas ce qu'ont donné les bourses aujourd'hui. Je ne sais pas si les marchés financiers ont continué de considérer ça comme une bonne nouvelle. Donc il y a ce discours de Trump qui dit il y a des négociations, ne vous inquiétez pas, la guerre est bientôt finie. Et en même temps, d'abord, l'Iran dément, disant il y a un canal de discussion, mais on est loin, très loin de négociation, et on est très très loin d'accepter les conditions mises par Trump. C'est un plan de paix en X points. Et de l'autre, il y a des rumeurs de préparation d'opérations terrestres. Mais comment on peut affirmer qu'il y a des négociations de paix et en même temps préparer des frappes terrestres ? C'est la grande question. L'un n'empêchant pas l'autre, d'ailleurs. L'un n'empêchant pas l'autre. Donc on a un premier papier... Dans Libé, les risques et périls d'une opération terrestre en Iran, malgré des négociations en cours, voilà. L'administration américaine renforce son dispositif militaire et envisage des opérations terrestres délicates. Donc on parle quand même. Comment ça, problème micro ? Let's Go dit qu'il y a des problèmes micro. Je vous laisse valider l'info de Let's Go ou me dire que c'est que chez lui. Non, c'est que chez toi. Donc je sais pas. Là, on parle de. Merci les amis. Là, on parle de soldats américains. Sur le sol iranien, avec tout ce que ça peut impliquer. Voilà. En termes d'escalade, on ne connaît pas la réponse que fera l'Iran à ça. En termes de morts de soldats, notamment côté américain, et envisage notamment donc, des opérations sur l'île de Karg, hein, qui est un centre névralgique de la production pétrolière iranienne, au détroit d'Ormuz, qui pourrait entraîner, je ne suis pas le seul à le dire, une dangereuse escalade. Lisons le papier de Frédéric Autran dans Libération. Négocier ou amplifier la guerre. Vu de Washington, le conflit avec l'Iran semble ces jours-ci évoluer en un entre. C'est ça, c'est ce que je disais. Dans un entre-deux. Négociation, frappe et intervention terrestre. Où chaque geste militaire contredit les ouvertures diplomatiques. Après, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Menacer d'intervention, d'opération terrestre, c'est aussi peser sur les négociations. Officiellement, des pourparlers indirects se poursuivent. Donc ce n'est pas des négociations officielles entre Washington et Téhéran, mais indirectes via d'autres pays, impliquant notamment la Turquie, le Pakistan, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, mais à Téhéran, la méfiance domine, écrit Libé. Dimanche, le président du Parlement iranien a accusé les États-Unis de duplicité. L'ennemi envoie publiquement des messages de négociation et de dialogue tout en planifiant secrètement une offensive terrestre, a-t-il déclaré. Difficile de lui reprocher son scepticisme. En juin, depuis le 28 février, Washington a frappé l'Iran en pleine séquence diplomatique. Oui, c'est vrai. L'opération de juin avec Israël, les 12 jours là, de frappe, et le conflit démarré le 28 février, à chaque fois, on démarrait alors qu'il y avait des négociations entre l'Iran et les Occidentaux. Trump, fidèle à une ambiguïté dont il estime qu'elle fait sa force, entretient ce flou. C'est un peu manier le bâton et la carotte, ce qui est un classique. Dans ce contexte incertain, les États-Unis musclent leur posture militaire. Des informations dessinent un éventail d'options, incluant des opérations terrestres, mais alors limitées, hein, oubliées, enfin, a priori, oublier le fantasme d'une invasion de l'Iran par de très nombreuses troupes américaines. On parle, depuis plusieurs jours, on en parle ensemble, de frappe ciblée, hein, hit and run, en mode on frappe, on fait ce qu'on a à faire, récupérer de l'uranium enrichi par exemple, ou détruire des installations, hit and run et partir très vite pour ne pas s'exposer à une riposte et perdre des soldats américains, ce qui en termes de conséquences sur l'opinion publique à quelques mois d'élection de mi-mandat pourrait être très compliqué. C'est le rôle du Pentagone de se préparer afin d'offrir au commandant en chef un maximum d'options. Cela ne signifie pas que le président a pris une décision à temporiser le porte-parole de la Maison-Blanche. Sur le terrain, effectivement, comme certains le disent dans le chat, les renforts se précisent. Effectivement, il y a des soldats militaires, des troupes en capacité de débarquer sur le sol iranien qui se concentrent dans la région. L'USS Tripoli arrive vendredi dans cette zone avec environ 3500 militaires, dont 2200 soldats de la 31e unité expéditionnaire des Marines, avec des hélicoptères Seahawks, des Osprey pour le transport de troupes, des engins d'assaut amphibie, des F-35, offrant, écrit Libération, une combinaison rare de mobilité et de puissance de feu. Donc des moyens militaires, il y en a. Vous avez un second groupe amphibie autour de l'USS Boxer qui est en direction du Moyen-Orient. Voilà. Selon les militaires, on parle d'un outil rapide, modulable, capable de frapper ponctuellement ou de tenir brièvement un point stratégique. Donc on ne parle pas de rassemblement de troupes en capacité d'envahir l'Iran et de prendre le contrôle du territoire iranien. C'est comme si deux œuvres de musique différentes étaient interprétées en même temps. Oui, à Robaz, il y a une forme de cacophonie, mais en même temps, être en capacité, enfin préparer des opérations militaires pour être en capacité de les mener, ça peut être aussi une façon de peser sur les négociations, quoi. En tout cas, ça ressemble bien à du Trump. Alors, concrètement, parce que là, je blablate, parmi les scénarios étudiés figure la prise de l'île de Karg. On a peut-être une carte ici. Située dans le nord du golfe Persique. Je ne sais pas si on la voit ici. Et frappée mi-mars par les États-Unis, cette bande corallienne abrite le principal terminal d'exportation du pétrole iranien. À Washington, certains estiment que sa capture, en privant le régime de sa principale source de devises, constituerait un levier crucial dans une négociation. La réalité militaire tempère cet enthousiasme. À seulement 30 km des côtes, Karg est aussi à quelques minutes de vol seulement d'éventuels drones ou missiles iraniens. Concrètement, si des soldats américains débarquent sur cette île, de Karg, le risque est très grand que des missiles iraniens et des drones viennent frapper les soldats américains. Vous avez un ancien officier du renseignement militaire américain qui dit même « Pour les troupes américaines assez malchanceuses de recevoir cet ordre de prendre Karg, l'opération se situerait entre une mission suicide et une prise d'otage auto-infligée. » Le risque dépasse le seul assaut initial. Acculé, le régime iranien pourrait exploiter la présence de soldats américains comme moyen de pression. L'opportunité d'infliger des pertes massives ou de retenir des bataillons entiers comme des otages de facto pourrait apparaître plus précieuse pour Téhéran que les revenus pétroliers. L'historien américain Philip O'Brien met en garde. Une action militaire semble toujours plus facile quand elle est au stade hypothétique. Rappelez-vous Poutine qui voulait envahir l'Ukraine en 3 jours. Certes, les États-Unis pourraient s'emparer de Karg, mais cela ne ferait que déclencher une cascade d'effets qu'ils pourraient ne pas être en mesure de contrôler. Or, depuis le début, on a du mal à lire la stratégie de Trump dans ce conflit. Voilà. Et là, la question, c'est est-ce qu'il a bien prévu tous les tenants et aboutissants de cette éventuelle opération militaire ? D'autres cibles sont dans le viseur de Washington, on parle de l'île de Karg, à l'entrée du détroit d'Ormuz. Sept îles iraniennes forment ce que deux chercheurs iraniens et chinois désignaient en 2022 comme l'arc de défense de Téhéran. C'est deux îles, non, c'est sept îles, pardon. Je crois qu'ils les présentent comme des porte-avions immobiles, ces îles. Elles permettent à l'Iran de paralyser ce passage stratégique, dans le détroit d'Ormuz. Vous savez que la fermeture par l'Iran, qui laisse passer quelques navires de pays alliés, a provoqué deux grosses tensions sur le marché mondial du pétrole et il y a un début d'impact sur l'économie mondiale. Le 11 avril, MVP, point d'exclamation, festival. Mais là encore, le terrain est piégé. Les officiels iraniens qui voient ces îles, c'est ce que je vous disais, comme des porte-avions stationnaires et insubmersibles, y ont massé d'importants moyens militaires. Avant sa mort la semaine dernière, dans une frappe israélienne, le chef de la marine des gardiens de la révolution supervisait ses efforts. Et donc, toute tentative américaine d'y débarquer pourrait se heurter à une défense intégrant missiles, drones, vedettes rapides et mines. Bien sûr, Marc de Gaute, t'as tout sur le site pour l'exclamation festival. Des frappes massives ont déjà commencé, notamment sur les îles de Grand Tumb et Abu Moussa, la plus lourdement militarisée. Donc voilà, des îles qui auraient déjà subi a priori d'importants dégâts. Pour l'armée américaine, le principal risque reste celui de l'exposition de ses troupes. À partir du moment où vous mettez par exemple des soldats américains sur ces îles, de la capacité de l'armée américaine à les protéger. Encore une fois, c'est quelque chose qui est assez basique à rappeler, mais une grosse partie de l'électorat MAGA a voté pour Trump, notamment pour sa promesse de cesser les interventions des États-Unis à l'étranger. Et encore plus les interventions à l'étranger coûteuses en vie humaine, en vie américaine. Si Trump essuyait des pertes humaines de soldats américains, là, dans les prochains jours, les prochaines semaines, en Iran, par rapport à sa base électorale, la base dite MAGA, ce serait potentiellement une catastrophe, quoi. Ce serait il pourrait dénoncer un reniement total de l'une de ses principales promesses. Pour l'Iran, toute opération terrestre deviendra une occasion de tuer des Américains qui seraient regroupés et concentrés à proximité immédiate de ses côtes. Entre diplomatie sous tension, les discussions dont nous parlions tout à l'heure, préparation militaire et dangers opérationnels, Trump avance donc sur une ligne de crête. Le passage des opérations terrestres ouvrirait une phase plus risquée, tant sur le plan humain que politique. À Téhéran, le message est sans ambiguïté. Nos hommes attendent l'arrivée des soldats américains sur le terrain pour les attaquer, a lancé dimanche Mohammad Bagher Ghalibaf. Voilà. Et là, vous avez un éclairage justement sur un mois, puisque ça fait un mois de guerre. Alors, dans ces multiples annonces, ça dépend quel jour tu prends les annonces de Trump, mais dans ces multiples annonces, il y a eu notamment la promesse que le conflit allait durer 4-5 semaines. On y est, on est à 4 semaines là. On va lire ce papier dans un instant. Je vous lis un petit peu d'abord. Après, là, je vous donne des infos, des infos un peu brutes. Et bien malin celui qui dira ce qui va se passer dans les prochains jours. Il est bon le café, il est très bon. Quoi qu'il fasse, RIP, la libération du peuple iranien. Ah oui, à l'heure actuelle, plus personne ne parle de la libération du peuple iranien. Ouais. Là, autant au tout début de l'intervention américaine et puis dans les jours autour de... des manifestations d'Iraniens réprimées dans le sang, vous le savez. Il y a eu des déclarations de Trump qui pouvaient laisser penser que l'un des objectifs de la guerre côté américain était de libérer le peuple iranien. Aujourd'hui, il n'en est plus du tout question à ce jour. Lisons justement peut-être ce résumé d'un mois de conflit, toujours dans Libération. Faute de but précis dans le conflit en Iran, le président américain navigue à vue en alternant menaces de bombardement et négociations sans exclure une opération terrestre. Dans la foulée des premières frappes contre l'Iran, Trump avait prédit une opération de 4 à 5 semaines. Nous y sommes, écrit Libération, la guerre au Moyen-Orient est entrée dans sa cinquième semaine. Donc on a déjà 4 mois derrière. Et plus les jours passent, plus les commentaires du président des États-Unis sur des opérations bien en avance par rapport au planning sonnent creux, tout simplement parce qu'il semblerait bien qu'il n'y a jamais eu de calendrier ni de planification. Depuis le début, la Maison-Blanche navigue à vue et les ministres tentent comme ils peuvent d'expliquer les ordres contradictoires lancés par leur capitaine. De ce point de vue, la dernière semaine qui vient de se passer a peut-être été la plus équivoque. Elle a commencé sur un ultimatum grandiloquent lancé à l'Iran, vous vous souvenez ? 24 heures ou 48 heures. Pour débloquer le détroit d'Ormuz. Voilà, 48 heures, libération précise. Sous réserve de voir des bombardements massifs sur les installations énergétiques iraniennes. Hein. Et finalement, le fameux ultimatum de 48 heures a été repoussé deux fois, ce qui est très Trump, hein, ce qui est assez classique, et désormais fixé au 6 avril. Au travers de ces prises de position erratiques, mouvantes, changeantes, on lit encore et toujours chez le milliardaire une pensée transactionnelle, mettre la pression pour obtenir un accord, une victoire, et peser sur des négociations dont il a juré qu'elles se sont tenues toute la semaine dernière malgré les dénégations de l'Iran à ce propos. Il fonctionne comme un homme d'affaires qui se fiche des invariables d'une guerre. Il utilise les mêmes techniques que d'habitude, menacer les gens, les insulter, attirer l'attention sur ce qu'il veut dire, mais il se rend compte que cela ne fonctionne pas toujours. On a l'impression que quelque part, Trump se comporte dans ce conflit au Moyen-Orient comme il s'est comporté par exemple pendant la guerre commerciale avec le monde. Vous savez, quand il a annoncé des droits de douane extrêmement forts sur ses partenaires, européens notamment, mais pas seulement, et avant de revenir un peu en arrière quand il avait obtenu l'essentiel de ce qu'il estimait qu'il pouvait obtenir. La différence ici, c'est que ce n'est pas une guerre commerciale. C'est une guerre tout court. Les conséquences ne sont pas les mêmes. Et en face, il n'y a pas un partenaire commercial, Canada, Union européenne ou que sais-je. Il y a un ennemi de toujours, qui est l'Iran. Donc, pas sûr que cette stratégie puisse marcher. C'est peut-être une des erreurs qu'a fait Trump. Il pratique l'art de la négociation d'une manière qui ne fait que semer le chaos, dit un professeur d'histoire américain, par exemple, qui s'appelle Julian E. Zelizer. Voilà. Lui-même l'a reconnu d'ailleurs cette semaine lors d'un meeting. Vous devez comprendre que toute ma vie n'a été qu'une succession de négociations. Alors pour pousser plus loin son avantage, Trump agite le chaud et le froid, il ouvre des portes et en ferme d'autres. Cette semaine, il a en même temps assuré songer à réduire progressivement les opérations militaires en Iran et dépêcher un navire d'assaut amphibie avec 3500 marines à son bord. La même semaine, il a donc assuré songer à réduire les opérations. Et en même temps, il envoie des hommes supplémentaires. Trump. La presse américaine évoque même le possible déploiement de 10 000 soldats et avec eux la menace d'une intervention terrestre, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Qui changerait des soldats américains sur le sol iranien ? Évidemment, ça change radicalement la nature de ce conflit. Hein ? Et surtout, changerait également la manière dont le public américain le perçoit. Si la guerre reste impopulaire pour une majorité de citoyens américains, parce que pendant ce temps-là, la cote de popularité de Trump dégringole hein, aux États-Unis. Si la guerre reste impopulaire pour une majorité de citoyens américains, Trump bénéficie toujours du soutien des républicains et davantage encore de la base MAGA, mais cette base MAGA voit d'un très mauvais œil la possibilité d'envoyer leurs enfants, les soldats, mourir au Moyen-Orient après une campagne qui avait été marquée par un discours America First censé en finir avec les guerres éternelles. Fin de l'article. Trump a beau se vanter d'écraser l'Iran, d'avoir détruit leur capacité balistique et militaire, il n'a pas réussi à faire plier le régime et surtout le priver de l'uranium enrichi, qui est toujours caché et stocké quelque part. Ça pourrait être l'objectif de l'une des opérations terrestres, d'ailleurs, de faire main basse sur cet uranium. Il n'a pas réussi à faire plier le régime et surtout à le priver de l'uranium enrichi qui pourrait lui permettre d'obtenir à terme l'arme nucléaire. Ces bombes ont beau faire trembler Téhéran, détruire ses immeubles, tuer ses leaders et ses généraux, elles ne suffisent pas à le mettre en position de force. Avec son chantage au pétrole, le régime des Mollahs entraîne le monde dans la folie de Trump et il sait qu'il doit rapidement se sortir de ce bourbier au risque d'en payer le prix fort. Sa cote de popularité a chuté ces derniers jours à 36%, son plus bas niveau depuis son retour à la Maison-Blanche selon un récent sondage Reuters Ipsos. Il y a un article que je ne vous ai pas mis dans la revue de presse, qui est un article sur les... Alors, selon les sources, certains parlent de millions de manifestants qui viennent de descendre dans la rue aux États-Unis contre Trump. Hein, la vision qu'on peut avoir depuis l'Europe d'un peuple américain massivement pro-Trump, quand on voit ce sondage, cote de popularité à 36%, et les manifestations qui viennent de se tenir. Je vais peut-être aller vous chercher le papier, d'ailleurs. Faut que je vois si j'ai mes notes. Voilà, c'est de ce dont je parle, Nightwolf. C'est littéralement ce dont je parle. Quand tu me dis pas d'article sur les No Kings protests, c'est ce que je viens d'évoquer à l'instant. Fred écrit, en tout cas, bonne chance au soldat américain qui mettra le pied en Iran. Ça risque d'être un remake de l'opération des otages de 79. 36%, c'est bien? Une cote de popularité à 36%, tu trouves ça bien? Non, c'est une catastrophe. Salut, Mac de Gaute. Il y a un édito ici, puis peut-être qu'on ira chercher cet article sur les manifestations aux États-Unis dans le Figaro cette fois. Merci Exutoire. Qui estime effectivement qu'on est peut-être à un tournant de la guerre. En 4 semaines, les frappes israélo-américaines ont affaibli le régime iranien, mais ne l'ont pas vaincu. Les gardiens de la révolution poursuivent leurs représailles à l'échelle de la région, les étendent même avec l'entrée en jeu des houthistes du Yémen et la multiplication des tentatives d'attentats en Europe. Ils continuent à dissimuler 454 d'uranium enrichi, qui n'ont d'autre raison d'être que la quête de la bombe atomique. Merci Malaco. Et ne relâchent pas leur étreinte sur la population doublement victime des bombardements et de la répression. Plus personne ne parle de la libération du peuple iranien. Trump pourrait poursuivre le cours des opérations en espérant que, à un certain point, le corset militaro-théocratique de l'Iran se fracture, que le régime s'écroule. Mais cette perspective paraît incertaine, tant ce pouvoir, désormais sans visage, s'est préparé depuis très longtemps à vivre par les armes. Le président américain ajoute donc de nouvelles cartes à son jeu, offre de négociations qui, pour l'heure, répliquent ses exigences de désarmement et de capitulation, arrivée de forces terrestres, dont l'engagement marquerait un tournant dans la guerre. Donc comme il s'aperçoit que la chute du régime iranien ne semble pas pour tout de suite, il a sorti deux autres cartes de ses manches, les négociations et la menace de frappe terrestre. S'il concourt à la pression exercée sur Téhéran, les 5000 marines à pied d'œuvre, même renforcées peut-être par le déploiement envisagé de 10 000 soldats et parachutistes, donc on parle de 15 000 soldats potentiellement, ne constituent pas une force d'invasion de nature à impressionner le régime des Mollahs. Toutefois, Trump a montré sa propension à utiliser des ressources militaires à sa disposition. La question est donc de savoir ce qu'il projette de faire avec cette troupe. Non négligeable pour mener des opérations commando, mais insuffisante pour tenir un terrain hostile. S'il veut sortir la tête haute d'un conflit qui menace de s'éterniser, ça me semble très compliqué aujourd'hui, le chef de la Maison Blanche a besoin d'un trophée. Alors quel trophée? Comme Trump n'a pas vraiment fixé de but de guerre, enfin il en a annoncé tellement qu'il n'en a pas vraiment, finalement, si à un moment il dit, écoutez, moi l'objectif c'était ça, c'était de libérer le détroit d'Ormuz, ce qui serait surréaliste parce que la fermeture du détroit d'Ormuz n'est que la conséquence du conflit. Mais bon, à un moment il est capable de vous dire, mais moi l'objectif depuis le début c'était de libérer le détroit d'Ormuz, quoi. Donc il pourrait dire, c'est bon, la guerre est finie. Ce serait surréaliste, mais bon. S'il veut sortir la tête haute d'un conflit qui menace de s'éterniser, le chef de la Maison Blanche a besoin d'un trophée. La présence de troupes au sol pointe vers trois options. Un changement de régime. Alors ça, ce serait effectivement un trophée. De dire, on a libéré les Iraniens, on a fait tomber le régime islamique. Okay. Le déblocage du détroit d'Ormuz. Alors ça, ce serait très très drôle. Que Trump nous dise à un moment, j'ai atteint mon objectif qui était de libérer le détroit d'Ormuz, alors que ça n'est qu'une conséquence du conflit, ça n'a aucun sens, mais bon. Ou la récupération du stock d'uranium. Ça, pour le coup, ça, c'est, oui, c'est, ça peut être considéré comme un objectif de guerre. Toutes sont extrêmement aléatoires et risquées, reposant sur du renseignement de haute précision dont le secret est bien gardé. Il est clair en tout cas que les dirigeants iraniens prennent ces hypothèses au sérieux. Leur réponse a déjà esquissé via le détroit de Bab al-Mandab et le pétrole saoudien en mer Rouge marquera une autre escalade aux répercussions mondiales. Je vous lis. Merci Fred. Fred me dit, attention, sur les 15 000 soldats, tous ne seront pas des combattants de première ligne. La politique de l'armée américaine de 4 logisticiens pour un combattant, sans compter les pilotes d'hélicoptères de F-35 sur leur BPC. Merci. Donc ça va s'envenimer? Ah mais moi je sais pas, Sugar. MMG, excuse-moi. Les buts de guerre israéliens et américains ne sont pas alignés? Non. Nougat, la plupart des observateurs constatent que les buts de guerre israéliens et américains ne sont pas alignés. Alors, les buts... déjà pourquoi? Parce que les buts de guerre américains, on ne les connaît pas. Ils sont pas clairs. Les buts de guerre israéliens sont très clairs. C'est affaiblir au maximum, aussi fortement, aussi longtemps que possible, le régime iranien qui, depuis toujours, est considéré comme une menace existentielle pour l'État hébreu. L'Iran, le régime islamique, ayant promis la destruction d'Israël à plusieurs reprises. Donc Israël, l'objectif d'Israël, pour le coup, il est clair. Je vais vous chercher un autre truc là sur les manifs. J'espère que je vous ai mis l'article de côté. Où est-ce que je vous ai mis le papier? Bougez pas. J'ai plus mes notes, mais c'était dans le Figaro de mémoire. On va aller voir, on va aller voir. Pour moi, c'est dans le Figaro. Je pense qu'on va vous le rajouter parce que vous m'en parliez. Bougez pas, regardez. C'est sur les manifs aux États-Unis contre Trump. Voilà, c'est là. Ouais. Du coup, je vais vous créer un titre supplémentaire. J'aurais dû vous le mettre. Hop, je vous le rajoute. Des millions de manifestants contre Trump. Alors, millions, c'est ce que disent les organisateurs. Mais en tout cas, il y avait du monde. Voilà, Trump, Figaro. Et je vous le mets là. Voilà. Le mouvement No Kings, c'est ça. Aux États-Unis, des millions de manifestants défilent contre Trump. Le mouvement No Kings a organisé des rassemblements dans 3000 villes, hein, c'était ce week-end, pour dénoncer un président qu'ils accusent d'abus de pouvoir. Voilà. C'est aussi, si je vous mets cet article en avant, c'est aussi pour oublier cette idée que le peuple américain serait comme un seul homme derrière le président Trump. Je vois des mails qui sont en train de pop sur ma boîte mail de gens qui veulent des infos sur ma formation Valorant, qui se disent intéressés, point d'exclamation, formation. Vous avez toutes les infos, vous avez le clip, et je vous en dis plus dans les prochains jours. Ça me fait plaisir parce qu'on a bossé beaucoup sur le sujet. Merci. Les manifestants se sont rassemblés samedi matin à l'entrée du cimetière national d'Arlington en Virginie. La foule portant des pancartes anti-Trump a traversé le Potomac par le pont du Mémorial en direction du mausolée d'Abraham Lincoln, du monument de Washington, pour déboucher sur le National Mall, la vaste esplanade au centre de la capitale fédérale américaine. Leur revendication, Trump must go, Trump doit partir, non à la guerre, pas de roi, destitué, démettre, condamné, non à l'ICE, la police de l'immigration, pas de justice, pas de paix. Un autre cortège s'était formé au sud-est de la ville, pour aller manifester devant la base de Fort McNair, zone de résidence militaire, où ont emménagé ces derniers mois plusieurs membres du cabinet Trump, notamment Stephen Miller, le secrétaire général adjoint de la Maison-Blanche, en charge des politiques anti-immigration, mais aussi la procureure générale, Pam Bondi, le secrétaire à la défense, Pete Hegseth, le secrétaire d'État, Marco Rubio. Certains manifestants scandaient « Stephen Miller doit partir ». La manifestation No Kings, pas de roi, c'est la troisième, c'est pas la première. Hein. Depuis le retour de Trump au pouvoir, est organisée sur le même principe que les précédentes, pacifique, non violente, destinée à rassembler l'opposition la plus vaste possible. Les organisateurs ont délibérément choisi ce seul mot d'ordre qui rappelle les origines de la Révolution américaine et auquel, oui, No Kings, ok, et auquel le 250, non, à l'époque c'était contre la couronne royale britannique bien sûr. Les organisateurs ont délibérément choisi ce seul mot d'ordre qui rappelle les origines de la Révolution américaine et auquel le 250e anniversaire de la Déclaration d'indépendance, qui aura lieu le 4 juillet, merci Jean Bambois, donne cette année une résonance particulière. Les manifestants dénoncent les actions d'un président qui, depuis son retour à la Maison-Blanche, se considère comme un détenteur d'un mandat populaire lui donnant les pleins pouvoirs, hein, ignorant le Congrès, vous le savez. Bouleversant les usages et les équilibres politiques, Trump, qui n'a jamais prétendu vouloir rassembler au-delà de son propre camp, qualifie ses opposants et ses critiques d'anti-américains ou de dérangés de la gauche extrême. C'est drôle, dans le chat, tout à l'heure, j'ai vu un message de quelqu'un qui disait « Mais alors, les manifestants américains, là, ils sont pro-iraniens, alors ?» Alors, littéralement, c'est, ça pourrait être un... Je l'ai eu dans notre chat tout à l'heure. Ça pourrait être un argument de Trump, ça, ouais. Voilà. Sors de ce chat, Donald, s'il te plaît. Voilà. Effectivement, c'est comme ça que le président américain voit les opposants aux États-Unis. Hein, des anti-américains, des dérangés de la gauche extrême. 36% de cote de popularité, ça fait beaucoup de dérangés de gauche extrême, ça fait beaucoup d'anti-américains. Nous sommes les vrais patriotes, chantaient les manifestants en brandissant des drapeaux américains, des dessins de statues de la liberté, des extraits du préambule de la Constitution américaine. La première manifestation de No Kings a été organisée en juin 2025, en réaction au défi militaire organisé par Trump à Washington. La deuxième en octobre 2025, qui avait rassemblé 7 millions de personnes à travers les États-Unis. Alors, c'est pas rien, hein. Devenant l'un des plus vastes rassemblements de l'histoire contemporaine du pays. Comme les fois précédentes, les manifestants ont défilé ce samedi et se sont dispersés dans le calme. Beaucoup étaient venus en famille ou bien avec des amis. Nous ne comprenons plus l'Amérique, dit par exemple Anne Barth, qui est venue de Virginie-Occidentale pour participer à la manif avec deux amis. Mais quand on voit la foule aujourd'hui, on sent que les gens commencent à réagir, dit-elle. Il y a même eu des rassemblements dans les États qui votent massivement républicains, comme en Virginie-Occidentale. Je connais, dit cette femme, même des gens qui ont voté trois fois pour Trump et qui, pour la première fois, regrettent leur choix. Nous voulons que l'Amérique devienne de nouveau l'Amérique, confirme son amie Barbara Rose. C'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Cette mobilisation est importante, mais il est encore plus important d'aller voter en novembre prochain, dit la troisième amie Corinne Patterson. Ce qui se passe avec cette Amérique est pire que tout ce qu'on pouvait imaginer, explique Dana Carlton, qui est venue de Virginie avec son mari, qui est un ancien de l'US Air Force. On ne reconnaît plus notre pays, dit-elle. Entre l'ICE, qui a recruté des émeutiers du 6 janvier et terrorise les Américains, la destruction de la Maison-Blanche sans autorisation, et cette nouvelle guerre en Iran, on ne sait pas où cela va s'arrêter. Même des gens qui ont voté pour lui commencent à s'inquiéter. La seule chance de pouvoir l'arrêter est que les démocrates reprennent la majorité au Congrès en novembre prochain. Quelqu'un me demandait dans le chat à l'instant quelles seraient les conséquences d'une perte de majorité par Trump au Congrès à l'occasion des élections de mid-term. C'est difficile de répondre à cette question parce que Trump s'est notamment manifesté par le fait qu'il ne se souciait qu'assez peu de l'avis du Congrès, notamment pour déclencher des opérations militaires. Alors que normalement, il a besoin du feu vert. Dans sa guerre commerciale, il s'est fait retoquer par la Cour suprême pour avoir oublié qu'il ne pouvait pas prendre des mesures de rétorsion commerciale sans l'aval du Congrès, que c'était même une compétence du Congrès, et la Cour suprême américaine, dominée par les conservateurs pourtant, a donc annulé toutes les décisions liées à la guerre commerciale décrétée par Trump. Donc, Trump brille par sa capacité à ignorer justement ses contre-pouvoirs, cet équilibre des pouvoirs défini par la Constitution américaine. Donc, s'il perd la majorité, concrètement, qu'est-ce qui peut se passer ? Tout va dépendre du rapport de force, de son comportement, de ce que ferait une éventuelle majorité démocrate pour bloquer les actions de l'administration. Impeachment, bon alors Nico Pradi me parle de l'impeachment, qui est la procédure de destitution. Rainbow 86 en parle aussi. Alors, les gens qui suivent un peu les États-Unis en parlent souvent de ça. Moi, j'ai un avis un petit peu pessimiste là-dessus. La procédure d'impeachment, qui est donc une procédure de destitution, c'est le Congrès qui vote une mesure pour destituer, pour virer le président américain du pouvoir, est tellement compliquée à mettre en œuvre par les quorums à atteindre que c'est quasiment impossible. Dans l'histoire des États-Unis, il y en a eu zéro. Tout simplement. Il y en a eu zéro qui a réussi. Il y en a une qui aurait pu arriver à son terme. C'était contre le président Nixon. le scandale du Watergate, mais il a démissionné avant d'être éventuellement destitué. Voilà, donc on ne saura pas, on ne saura jamais si la procédure de destitution contre Nixon serait allée à son terme, puisqu'il a démissionné avant. Voilà. Donc ouais, je suis assez sceptique sur cette procédure d'impeachment. Excusez-moi, j'ai mon amoureuse qui m'écrit. Je vais me coucher. Pourras-tu, s'il te plaît, sortir les vêtements du sèche-linge? Avec le bébé à la maison, là, on fait tourner des lessives non-stop. Pio va fêter ses 1 mois bientôt. Il va très bien. Il est en pleine forme. Vous êtes adorable, merci. Ah non, non, je n'oublie pas ça. Voilà. Nous sommes. Tiens, vous parlez de destitution, c'est intéressant. Nous sommes ici parce que nous voulons voir Donald Trump destitué, condamné, déposé, dit une manifestante. C'est Jessica Denson, c'est même la fondatrice de l'organisation. Anciennement employée de la. Waouh! Anciennement employée de la campagne présidentielle de Trump. Elle avait remporté en 2023 un procès contre son ancien patron, l'accusant de lui avoir abusivement imposé un ordre de non-divulgation après la rupture de son contrat. Les manifestations se sont déroulées simultanément à travers tous les États-Unis. L'un des plus importants rassemblements a eu lieu à Minneapolis et Saint-Paul, ville jumelle du Minnesota, devenue cet hiver le symbole de la résistance aux politiques anti-immigration de l'administration, vous savez, avec la mort de deux manifestants, René Good et Alex Pretty, tués par des agents de l'ICE et de la patrouille des frontières. Suite à quoi Trump avait suspendu les opérations de l'ICE dans ces villes. Le nombre de manifestants n'était pas encore connu, mais on estime qu'il y a eu plus de 3000 rassemblements, donc cette estimation de plusieurs millions de manifestants, c'est une estimation pour l'instant, dans de grandes métropoles comme dans de petites localités. Un porte-parole de la Maison-Blanche, Abigail Jackson, a décrit ces manifestations comme de la production des réseaux de financement de gauche, ne bénéficiant que d'un faible soutien réel de la part du public. Les seules personnes qui s'intéressent à ces séances de thérapie anti-Trump sont les journalistes payés pour les couvrir, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Vincent, force pour tes révisions. Il faut que ça révise. Donc il ne risque que peu de perdre sa place. Oui, moi je dirais ça comme ça, Magmani. Et qu'en pratique, il peut faire ce qu'il veut avant que le contraire réagisse, il est vraiment limité. Bah après, c'est une histoire de rapport de force. Vous savez, chaque année, il y a un problème. En revanche, en raison des oppositions au Congrès entre républicains et démocrates, il y a ce qu'on appelle, vous savez, le gel des dépenses, des crédits là, qui font que... comment ça s'appelle déjà, ça a un nom ? Où les fonctionnaires ne sont pas payés, là. Le shutdown, voilà. C'est ça, hein? Ouais. Et donc, on pourrait imaginer, par exemple, que j'ai ce type de bras de fer, de menace. Enfin, mais là, je ne suis pas à la place de l'éventuelle majorité démocrate qui arrivera au bout. Qui aurait la majorité au Congrès au midterms. Ouais. Voilà. Et puis, c'est un peu une situation inédite quand même. Hein. Voilà. Donc, mais en tout cas, on suivra ces élections avec beaucoup d'intérêt. Puis d'ici là, il peut se passer bien des choses. Hein. Voilà. Donc, c'est intéressant et important de vous lire cet article. Je lis vos questions et puis on enchaîne avec l'IA, la guerre en mode automatique quand les IA sont de plus en plus présentes sur les terrains de bataille. Force à ceux qui ont un bac blanc. Je vois qu'il y a de la révision de bac blanc dans le chat. On enchaîne avec l'IA. C'est parti. Go. C'est quoi? Ah oui, je suis dans le Figaro, là. Une de Libé ce matin, regardez. Ukraine, Gaza, Téhéran. Alors, j'ai trouvé ça passionnant, cet article. IA, la guerre en mode automatique. Permettant davantage d'autonomie et une plus grande vitesse d'exécution, le recours massif à l'IA interroge le rôle des validations humaines dans les processus de décision de frappe. Hein. Entretien avec le patron de l'IA militaire française, Bertrand Rodepierre. Bon, l'entretien est intéressant, mais moi, ce que je voudrais vous lire, c'est l'article. Ici, et un édito dans... Non, pas d'édito, le dossier de Libé. Allons-y. L'IA en ordre de bataille. Sarah Connor, oui, il y a un petit peu de ça. Ouais. Planification stratégique, analyse de données, identification des cibles. Depuis quelques années, l'IA fait une percée dans les opérations militaires. Elle joue désormais un rôle clé dans la guerre au Moyen-Orient, avec une marge d'erreur assumée. C'est ça la question. Est-ce qu'on va laisser un moment l'IA quasiment choisir notre place? Et est-ce qu'on va assumer les éventuelles erreurs causées par ces IA? Un ouragan de feu déchaîné au rythme de 40 frappes par heure le 28 février, lors du premier jour de la guerre en Iran, Washington et Tel Aviv affirment avoir attaqué plus de 1000 cibles stratégiques, entraînant, vous le savez, la mort du guide suprême ou encore la destruction de 12 bâtiments militaires. Les Américains sont également suspectés d'avoir bombardé l'école de Minab, tuant 175 civils selon Téhéran, au moins 110 écoliers. Quelques heures seulement après le lancement de cette opération Epic Fury, le Wall Street Journal révèle une information qui ajoute un vertige aux atrocités. L'armée américaine a utilisé Claude, hein, le modèle d'intelligence artificielle générative d'Anthropic, pour attaquer l'Iran. Et l'IMAC pose la question à l'instant, c'est quoi la marge d'erreur? Est-ce que c'est l'école avec les jeunes filles iraniennes, par exemple? C'est la question que pose Libé. Ouais. Le Pentagone s'en est allé en guerre avec Anthropic, titre le New Yorker. Et voilà le grand modèle de langage, supposément éthique, au cœur des débats outre-Atlantique. Il y a Emmanuel Macron qui vient d'arriver dans le chat et qu'on salue. Mais quel a été son rôle exactement? La révélation, ça on ne le sait pas, hein, met en lumière une mutation bien réelle, mais invisible. La réponse que certains posaient à l'instant, est-ce que la frappe contre une école, est-ce que c'est un problème lié par exemple à une IA ou pas? Depuis quelques années, l'IA générative pénètre dans les organisations militaires. Même s'il convient de le préciser, essayer de savoir comment aujourd'hui elle est utilisée dans le détail, c'est se heurter à une certaine opacité, une boîte noire, dit par exemple Vincent Boulanin, qui est un directeur de recherche de programme de gouvernance de l'IA au Stockholm International Peace Research Institute, qui est un institut indépendant qui est destiné à la recherche sur les conflits, les armements, le contrôle des armements et le désarmement. On n'a pas le détail, voilà, on ne sait pas, on se pose des questions. Confirme Stéphane Taïa, maître de conférence sur le sujet. En revanche, on voit bien comment les outils peuvent être utilisés à partir des données tirées de ces théâtres de guerre. Et on sait aussi comment l'IA au sens large a peu à peu fait sa place dans les complexes militaro-industriels. Cela fait plusieurs années déjà que l'armée américaine utilise des outils d'IA pour de l'aide à la prise de décision ou pour équiper des armes avec différents degrés d'autonomie, l'autonomie des armes. Rappelle Rebecca Krutoff, professeure de droit, spécialiste de l'impact des technologies dans la défense. Il y a eu l'essor de l'analyse de données dans le cadre de la lutte contre le terrorisme après le 11 septembre 2001. L'émergence des drones en Afghanistan, l'avènement du machine learning. 2017, le Pentagone lance un projet qui s'appelle Maven, en partenariat avec Google, visant à améliorer l'analyse d'images collectées par les drones de l'armée américaine. Programme abandonné par le groupe de Mountain View après une mobilisation de plus de 3000 salariés, mais poursuivi par d'autres contractants, dont Palantir. Depuis, une digue est tombée. Le géant de l'analyse de données a développé une plateforme d'intelligence artificielle composée de plusieurs briques technologiques, le Maven Smart System. En juin 2022, Alex Karp, le directeur de Palantir, s'est rendu à Kiev pour proposer gratuitement ses services à Zelensky dans le cadre de la guerre contre la Russie. À partir de là, l'Ukraine devient un laboratoire où l'IA est utilisée pour l'autonomie des systèmes d'armes, l'observation. C'est affreux ce que je vais dire, mais les producteurs d'armes le savent depuis toujours. Rien de mieux qu'une guerre pour tester IRL, des systèmes d'armement, quoi, et montrer leur efficacité. À partir de là, l'Ukraine devient un laboratoire où l'IA est utilisée pour l'autonomie des systèmes d'armement, l'observation, l'identification des cibles, l'analyse des données, la logistique, les simulations, le ravitaillement. L'armée ukrainienne utilise le système SkyKit, développé à l'aide du logiciel Métaconstellation de Palantir, explique Amélie Ferret, coordinatrice du laboratoire de recherche sur la défense de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, et Laure de Roussy-Rochegonde sont des chercheuses responsables du Centre géopolitique des technologies de l'IFRI. À la manière d'un centre de renseignement mobile, ce SkyKit analyse des images satellites, élabore des plans de frappe pouvant être conduits sans contact avec la chaîne de commandement. Autrement dit, l'Ukraine se sert des outils de Palantir. À ce moment-là, c'est une interface qui se présente comme un chatbot, analysant, synthétisant de gros volumes de données de renseignement, décrypte une autre chercheuse, Sophia Goodfriend. Les soldats peuvent lui poser des questions sur le champ de bataille, les différents scénarios d'adaptation, les cibles ou frapper. Fin 2024, nouvelle étape. Palantir signe un contrat avec Anthropic pour intégrer Claude dans ses outils. Afin de soutenir les opérations gouvernementales, notamment en traitant rapidement de vastes quantités de données complexes, en améliorant l'analyse des données, en identifiant plus efficacement les schémas, les tendances, en rationalisant l'examen de la suite et ici page 4, de la préparation des documents, ainsi qu'un communiqué. Ce qui ajoute une couche de LLM au Maven Smart System. Sur un plan opérationnel, la guerre à Gaza marque un basculement. En avril 2024, le média d'investigation Plus 972 détaille l'arsenal d'IA utilisé par l'armée israélienne pour frapper le territoire palestinien à échelle industrielle. Merci à Tosh49, tu pourras lâcher ton sub en vrai. Gospel, un outil permettant d'identifier les bâtiments à frapper. Lavender, logiciel déployé pour identifier 37 000 Palestiniens comme suspects, associé à une autre app baptisée Where is Daddy, permettant d'alerter les officiers quand l'un des individus marqués pénétrait dans son domicile. Selon les sources militaires citées par ce média, Plus 972, les officiers ne consacraient que 20 secondes par cible avant d'autoriser le bombardement. Juste le temps de vérifier que l'individu était bien un homme. Donc si je comprends bien, pas une femme, pas un enfant, quoi. Avec une marge d'erreur estimée à 10%. Voilà. C'est un tournant dans les usages militaires de l'IA, signale Sophia Goodfriend. L'utilisation de cet arsenal avait établi un précédent, donc c'était à Gaza, dans la manière de se fier aux recommandations de la machine, ce qui a rendu possible ce qui est ensuite passé en Iran. Désormais, le secrétaire d'État américain à la Défense, Pete Hegseth, qui est un va-t-en-guerre, hein, vous le savez, qui prononce des discours enflammés sur le conflit, assume une stratégie dite AI first, l'IA en première ligne. Depuis le début de la guerre, les États-Unis et Israël annoncent avoir frappé plus de 15 000 cibles en Iran. En termes d'intensité, c'est sans commune mesure. Les LLM permettent de traiter les données en un temps infinitésimal. Le volume de cibles produit est tel que la question est de savoir combien de temps on va passer sur chacune de ces cibles. Je comprends en termes de validation des cibles par des militaires, par des humains, quelques dizaines de secondes. Pas besoin d'une armée d'analystes pour étudier les données recueillies par satellite vidéo sur le terrain. Concrètement, l'IA accélère la kill chain, la chaîne qui mène à une attaque. Alors, pour l'instant, dans l'article que je lis, je ne vois pas, a priori, de processus où l'IA décide seule de la frappe. Hein. Ouais. C'est juste pour accélérer la prise de décision humaine. Quoi. Mais, écrit Libé, cela met la prise de décision humaine sous pression, voire la relègue au rang de simple formalité. C'est-à-dire que si l'humain décide de faire confiance à l'IA à 100%, pourquoi il validerait pas quoi, la proposition de l'IA de taper. Donc la grande question que nous nous posons ici, c'est qui prend les décisions? Quand et comment les décisions sont-elles prises? À quelle vitesse? Voilà. Est-ce que les propositions de l'IA sont remises en cause, peuvent être remises en cause d'une manière ou d'une autre? Oui, Jean Bambois le dit, il pourrait valider une hallucination. Les IA, on le sait, peuvent parfois provoquer des hallucinations. Voilà. Et donc, on pourrait estimer effectivement que l'humain valide une hallucination de l'IA, quoi. Pour l'instant, l'humain reste dans la boucle, dit Vincent Boulanis, mais la question c'est qui prend la décision, quand et comment les décisions sont-elles prises, à quelle vitesse. Il y a aussi un sujet de distanciation cognitive entre celui qui décide d'engager l'attaque et celui qui l'a subi. Avec la liste de cibles proposées par les systèmes de soutien à la décision, la réalité est encore plus filtrée. C'est-à-dire que le lien entre la décision de frapper et les conséquences en termes de mort notamment, elle se dilue et s'édulcore, quoi. Sans parler des biais des LLM, on en parlait, hein. Selon l'étude du King's College de Londres, les modèles développés par Anthropic ou OpenAI semblent prendre des décisions dans le sens de l'escalade, menaçant de recourir à l'arme nucléaire dans près de 95% des scénarios de conflits simulés. Ok, on est littéralement dans Terminator, quoi. Attends, je relis cette phrase qui est folle. Selon une étude du King's College de Londres, les modèles développés par Anthropic ou OpenAI semblent prendre des décisions dans le sens de l'escalade, menaçant de recourir à l'arme nucléaire dans près de 95% des scénarios de conflits simulés. Bah l'IA, elle dit à un moment, moi j'ai l'arme nucléaire. Ou encore de l'inconnu des hallucinations, bravo, vous en parliez avant l'article, ces erreurs inhérentes à la technologie. Selon une enquête préliminaire révélée par le New York Times, l'armée américaine aurait utilisé des données dépassées et ciblé, alors quelqu'un me posait la question au tout début de notre échange, quid de l'éventuelle responsabilité, alors déjà de l'armée américaine, et d'une IA dans la frappe contre l'école en Iran. Libé écrit, selon une enquête préliminaire révélée par le New York Times, l'armée américaine aurait utilisé des données dépassées et ciblé l'école de Minab par accident. Même si Claude, le grand modèle de langage développé par Anthropic, ne crée pas directement des cibles, il travaille avec le Maven Start System de l'Agence nationale de renseignement géospatial pour identifier des points d'intérêt pour les officiers militaires. Je vais à la fin de l'article. Salut, bons entretiens d'embauche, Helico. Quelques jours avant le lancement de l'opération, Dario Amodei, dont on a vu le portrait il y a quelques jours dans Le Monde, qui fait une série de portraits sur les gourous de l'IA, on va en lire un autre tout à l'heure. Là. Dario Amodei, le patron d'Anthropic, refusait de lever les garde-fous éthiques et d'autoriser l'utilisation de Claude pour la surveillance de masse et les armes létales autonomes. Décision au service de la stratégie d'Anthropic, ce positionnement sur le marché de l'IA dite éthique, Sugar en parlait tout à l'heure. Le conflit en Iran marque-t-il une accélération vers l'automatisation de la guerre portée par Palantir ou Enduril, société spécialisée dans les systèmes d'armes autonomes, ou un moment de rupture vers davantage de régulation? Aujourd'hui, on est pris dans un débat un peu stérile entre deux imaginaires, résume Stéphane Taïa, d'un côté Terminator, de l'autre Prométhée, ou l'idée que la machine pourrait nous sauver, ce qui reste encore à démontrer. Voilà. On sent qu'on est à un carrefour. Et là, on voit arriver les IA concrètement dans le champ de bataille. Sicarius écrit, je crois que c'est l'une des questions qui se pose, j'ai vraiment peur que cela déresponsabilise les actions et que ce soit la porte ouverte à légitimer les choses les plus horribles sous couvert que c'est une décision non humaine et que de manière très pragmatique, les stats ont eu raison de l'humanisme. Je crois que c'est une des questions au centre de cette réflexion, ouais. Pardon, je vous lis. Pardon, j'ai des petits rototos de café. Hein. Pardon, c'est des tout petits rototos de café de bébé, hein, mais de café. Salut la Tatia. Oui, c'est ça, ouais. Ce qui me fait peur, dit encore Fufredi, c'est le besoin de vitesse dans ses décisions, ce qui risque de mettre à bas les filtres humains. Quand, là, ce qu'on comprend, c'est qu'au début, les premiers jours de la guerre israélo-américaine contre l'Iran, il y a eu énormément de frappes. L'article disait jamais on avait frappé aussi fort en si peu de temps. Donc, c'est-à-dire beaucoup de frappes. Pour qu'il y ait beaucoup de frappes, il faut des processus de décision très rapides. Et comme le dit Fufredi, est-ce que ça risque de mettre à bas les filtres humains, quoi? Mais du coup, l'armée continue d'utiliser Claude malgré les restrictions, parce que c'est ce que j'ai cru comprendre, Sugar, ouais. Voilà. Alors, c'est pas Claude de Koh-Lanta, non, c'est un autre. En Ukraine, me dit Rex Tremonde, l'IA est déjà autonome dans les situations de déconnexion forcée par le brouillage russe hors drone filaire. C'est ce que semblait dire l'article, effectivement, ouais. Avec des armes automatisées en Ukraine. Là, vous avez par exemple, ici, là, on est en Ukraine, là, un véhicule sans pilote utilisé par l'armée ukrainienne. Alors, on ne sait pas s'il y a l'IA dedans. Alors, sans pilote. Oui, sans pilote, oui. Donc sans pilote, même à distance, alors. Peut-être, ouais. Alors, c'est pas sûr que ce soit un drone kiné, parce que sans pilote, c'est pas très clair, c'est un peu ambigu comme présentation, quoi. Combien tu veux le prix, Kigon? Tu veux t'en acheter un? Je sais pas. Télécommandé, c'est pas sans pilote, dit, ah ouais, mais c'est pas écrit télécommandé, hein. Vous avez la légende sous les yeux et la légende elle est ambiguë. Véhicule sans pilote utilisé par l'armée ukrainienne dans la région de Kharkiv. On nous dit pas qu'il y a un opérateur. Et l'article nous dit bien qu'il y a des éléments de combat autonomes désormais en Ukraine. T'en es peut-être un. C'est ce que me dit Alima, qu'il y a bien des engins autonomes aujourd'hui en Ukraine. Bon, quelque chose me dit qu'on aura l'occasion d'en reparler. Waouh! Alors ça, j'adore Ked, c'est une ref à un vieux film. Un film de vieux, mais qui est tellement dans l'actualité, qui s'appelle War Games, qui est un film qui m'a fasciné quand j'étais ado. Ked 64 a vu ce film, hein, donc c'est avec un ordinateur, l'ordinateur du Pentagone, qui. Ouais, tic-tac-toe, Ked 64, j'ai la ref. Qui prend le contrôle et qui est sur le point de balancer des ogives nucléaires sur la Russie, enfin bref. Et la conclusion du film, et la conclusion de, à un moment de. À la, bon, on spoil, hein, de l'ordinateur, c'est quand il comprend que la seule façon de gagner à la guerre, c'est de ne pas jouer. Bon, exactement. Et alors, le film est ancien, on pourrait voir la bande-annonce, d'ailleurs, le film est ancien, mais peut-être que la réflexion. N'est pas, je me demande s'il n'y a pas Matthew Broderick, très jeune, dans ce film. Je sais plus, je me souviens que c'est lui. War Games. C'est lui, non? C'est lui, hein? Tout jeune, tout jeune, tout minot, tout minot. War Games. J'ai adoré ce film, j'ai adoré ce film. Je vous le mets. Je dirais vers 83 par là.
David Lightman was a master at computer games. A fast thinker.
Oh, David! Maybe you could tell us who first suggested the idea of reproduction without sex.
Your wife?
Get out, Lightman.
La blague est super drôle, hein. Pardon, il n'y a pas les sous-titres, mais la blague est super drôle. Le film était génial. On s'en fout les sous-titres, hein, vous êtes tous bilingues, hein.
And a promising student at an old game
Hi.
With an electronic twist.
Are those your grades?
Yeah. I don't think that I deserved an F. Do you?
You can go to jail for that.
Only if you're over 18. This computer company is coming out with these amazing new games in a couple of months. And I want to play those games. Wow.
What?
We got something.
He found the right code word to play the game.
We're in.
But it was the wrong computer.
Shall we play a game?
How could I ask you that?
How about mobile thermonuclear war?
Fine.
All right.
The trajectory headings for multiple impact re-entry vehicles.
What does that mean?
I don't know, but it's great.
All stations, this is Crystal Palace.
I wonder if I should use my subs.
22 Typhoon-class submarines departing Petropavlovsk.
What in the hell's happening here?
Oh, my God.
Shall we play?
I have 7. Correction, 8. That's 8 Redbirds.
Get on the sack. Tell them to flush the bombers.
Russians are still denying everything, sir.
Who are you working with?
Nobody.
Why don't I believe you?
Over day, we have Soviet missile warning.
Based on your arrest, pending indictment for espionage.
Espionage?
Confidence is high. I repeat, confidence is high.
Cobra Dane, is this an exercise?
Negative, this is not an exercise.
Give me the president on the horn.
It's still playing the game. It's gonna start a war.
Close up the mouth.
Clear. Is this a game or is it real?
War Games. Playing soon at a theater near you.
Shall we play?
Dans mon souvenir, t'es 83, c'est par là, et le film est incroyable. Et il est. Et quelque part, il est un peu d'actualité, quoi. Voilà. Alors. Donc, je vous disais, quelque chose me dit qu'on va reparler de tout ça dans les prochains mois, les prochaines années. Oui, il y a vraiment les opportunités de stage, JT, ouais. Il y a vraiment, il y aura plein de trucs sur place. Ouais, 83. Ouais. Alors justement, à propos d'IA, Le Monde a lancé il y a quelques jours, et vraiment bravo quoi, le journal Le Monde, une série de portraits sur les gourous de l'IA, comprenez les têtes pensantes de l'IA aujourd'hui, on est en plein dans ce débat. Alors, il y a eu plein de portraits récemment, et là il y a un nouveau portrait dans la dernière édition du Monde qui est sorti cet après-midi, de Faye Feili, qui elle plaide pour une IA centrée sur l'humain, parce que ce dont on s'est rendu compte ces derniers jours en lisant ces portraits, c'est que chaque gourou de l'IA avait une vision très personnelle de ce que l'IA allait pouvoir permettre, avec beaucoup d'espoir ou beaucoup d'inquiétude. Ah, vous n'avez pas la scène, pardon, excusez-moi. Autant pour moi, merci. C'est à elle qu'est revenu l'honneur d'ouvrir le sommet pour l'action sur l'IA de Paris le 10 février dernier. Ce jour-là, quelques minutes avant qu'Emmanuel Macron ne monte sur la scène, Faye Feili, donc hop, c'est elle que vous voyez ici. On va dire qui c'est dans un instant, a défendu le concept qui l'occupe depuis bientôt une décennie. Aujourd'hui, j'aimerais que nous osions ensemble bâtir une intelligence artificielle centrée sur l'humain. À Stanford, où l'informaticienne sino-américaine enseigne, elle a ainsi fondé en 2019 un institut pour une IA centrée sur l'humain, c'est le nom de l'institut. Quelques mois plus tôt, entendue par la commission des sciences de la Chambre des représentants américaine, Faye Feili a signalé déjà que le développement de l'IA devait être guidé par une approche centrée sur l'humain. Il n'y a rien d'artificiel dans l'IA, a-t-elle dit, elle s'inspire des humains, elle est fabriquée par des humains et surtout elle affecte des humains. Faye Feili cite parfois sa mère qui lui avait demandé en quoi consistait son travail et notamment les travaux qui lui ont valu le surnom de marraine de l'IA, ce qui est assez classe. Elle lui avait expliqué donc à sa maman comment elle avait à Stanford créé ImageNet, immense banque d'images légendaires avec précision, qui avait contribué au tournant des années 2010 à l'avènement de l'IA moderne. Cela n'avait pas semblé suffire. Comment l'IA peut-elle aider les gens, avait insisté sa maman. Cette question lui sert depuis de boussole. Une brève incursion chez Google Cloud entre 2017 et 2018 a enfoncé le clou. À cette époque, l'entreprise était branlée par une polémique. Des employés lui reprochent la signature d'un contrat avec le département américain de la défense. Tiens donc. Et craignent que l'IA qu'ils développent ne soit utilisée à des fins destructrices. J'ai compris avec humilité, dit-elle, que les mathématiques sont faciles. Les équations peuvent être longues, mais elles sont assez claires. Les êtres humains et les sociétés plus compliquées, déclarait-elle. De retour à Stanford, elle crée son institut qui repose sur 3 piliers. Le premier consiste à s'inspirer davantage de l'intelligence humaine en multipliant les collaborations avec d'autres disciplines. L'IA n'est pas qu'une niche de l'informatique, déclarait-elle. Nous utilisons l'IA pour des découvertes scientifiques. Nous voulons comprendre son impact économique. Nous voulons qu'elle perfectionne l'éducation, l'apprentissage. Elle est profondément pluridisciplinaire. Le deuxième pilier, après le fait que l'IA n'est pas juste une niche de l'informatique, c'est que l'IA doit augmenter l'humanité augmenter l'humanité et pas la remplacer. Nous devons mettre la dignité humaine, le bien-être et les emplois au cœur de nos considérations. C'est très beau ce qu'elle dit. Enfin, le troisième pilier, c'est que le développement de l'IA soit guidé par son impact potentiel sur les humains. En cela, les discours des prophètes de l'IA la scandalisent. Pour elle, ces scénarios détournent l'attention des véritables problématiques sociétales posées par l'IA, comme la désinformation, l'impact sur l'emploi, les risques pour la vie privée. Pour elle, c'est de cela dont on devrait parler, les problèmes de billets de ces technologies ou encore leur exploitation par les armées, ce dont on vient de parler. Utiliser la science, pas la science-fiction, disait-elle aux responsables politiques quelques jours avant le sommet de l'IA sur Paris. Pour réguler le secteur, donc Feifeli appelle à la régulation du secteur, il faut être pragmatique, faire en sorte de minimiser les effets pervers tout en encourageant l'innovation. L'IA peut par exemple permettre de mieux diagnostiquer les maladies, mais mal encadrée, elle peut aussi exacerber les biais déjà existants dans les systèmes de santé actuels. Merci Miel35 pour le soutien. C'est vachement intéressant, hein. Cette technologie est trop importante pour qu'elle ne soit détenue que par des intérêts privés, plaidait-elle dès 2018 devant les élus américains. Moi, je me permets de faire un parallèle avec les réseaux sociaux aujourd'hui qui appartiennent pour l'essentiel à des intérêts et des capitaux américains ou chinois dans le cas de TikTok, voilà, avec un encadrement. Limite inexistant ou limité par la puissance publique, par les États. Voilà. La même question se pose avec l'IA. Alors, ce qui est drôle, c'est la fin de l'article. C'est toutefois au sein d'une entreprise privée que Feifeli concentre désormais ses efforts techniques. En 2024, elle a fondé sa propre start-up World Labs, consacrée à l'IA spatiale, avec pour ambition d'apprendre aux machines à comprendre le monde physique afin de pouvoir y interagir. L'entreprise a annoncé le 18 février une levée de fonds de 1 milliard de dollars, 845 millions d'euros. Bon, merci. Je vois beaucoup d'avis très pessimistes dans le chat. Pour l'instant, c'est mal parti vu les grands acteurs de l'IA. Elle est brillante, cette femme, dit Nougat, mais malheureusement, je pense que l'être humain, étant ce qu'il est, il ne s'en servira que pour son intérêt personnel. Autre parallèle de Magmani, mais cette fois avec la question environnementale. En fait, le problème autour de l'IA est peut-être le même que celui de l'écologie. Beaucoup sont d'accord pour dire qu'il y a des problèmes et qu'il faut l'encadrer, mais personne ne veut le faire de peur de perdre la course. Merci Silat pour le soutien. Alors, moi je dis bravo au monde parce qu'on a toute une série de portraits comme ça, des gourous de l'IA. On en est qu'à l'épisode 4 sur 9. Donc on va lire tous les épisodes à venir. Je pense qu'à l'issue de tout ça, on aura gratté un peu de connaissances sur l'IA. Aka dit, le problème aussi, c'est USA versus Chine, pour celui qui aura la meilleure IA, quel que soit le prix. Le problème, c'est que derrière cette question d'intérêt public, y a des intérêts privés, effectivement, en compétition, quoi. Bon, à suivre donc. Alors, je vous emmène vers Adrien Bilal, meilleur jeune économiste 2026, d'après ce que j'ai compris, il est français. Et justement, on va parler d'environnement. La transition est parfaite. Adrien Bilal, donc Cocorico, meilleur jeune économiste 2026, le professeur assistant à l'université de Stanford, 35 ans, vient de remporter la 27e édition du prix du meilleur jeune économiste, créé en 2000. Et en plus, il est beau gosse, très énervant. Alors on va passer rapidement sur ça, mais ce sont ces travaux qui m'intéressent. Donc là, c'est sur le prix, ça parle du prix, qu'est-ce que c'est que ce prix, blablabla, blablabla. Voilà. Ça. Alors on a tous les anciens lauréats ici. Voilà. Vous avez Julien Cagé, par exemple, Vincent Ponce dans le passé. Gabriel Zucman, qui a reçu le prix en 2018 aussi. Est-ce qu'il y a son parcours? Voilà, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Voilà, ce qui m'intéresse le plus, c'est ça, c'est son travail. Ici, c'est ça que je vous ai mis de côté. Le réchauffement climatique va coûter 50% du PIB d'ici à 2100. Le lauréat donc de ce prix du jeune économiste, Adrien Bilal, a développé un modèle permettant de mieux capter les impacts globaux des changements climatiques. Let's go. Donc on l'a rencontré le monde aux États-Unis parce qu'il travaille aux États-Unis. En cet après-midi de mars, sur le campus ensoleillé de Stanford, avec bon, on nous décrit les arbres, je vous passe le truc là. Un calme propice à la concentration règne. Aucun son ne sort du départ. Bon, ça du blabla, c'est super joli, mais je vous passe ça. Ah, voilà, on a son parcours. Le chercheur a suivi un parcours d'excellence, Major Polytechnique 2010. C'est très énervant, hein. C'est très énervant ces gens, hein. Il rentre à l'école d'économie de Paris, développée par Daniel Cohen. Voilà. Il a décroché un doctorat à Princeton. Voilà. Puis, ce fut la tournée des plus grandes écoles américaines, Université de Chicago, Harvard et enfin Stanford sur la côte ouest, où il est actuellement professeur assistant d'économie. Ses publications ne laissent pas indifférent, même truffées de formules complexes et de calculs mathématiques, elles parlent au grand public, ce qui n'est pas si courant. L'une des premières publications, publiée en 2024, a fait l'effet d'une bombe et fut largement reprise par la presse. Elle explique qu'à politique constante, c'est-à-dire si on ne fait rien, le réchauffement, c'est si on fait rien, le réchauffement va coûter 50% du produit intérieur brut d'ici à 2100, 6 fois plus que ce que prédisaient jusqu'ici les modèles traditionnels. Pourquoi c'est énervant? Bah parce que j'aurais aimé être aussi brillant que ce gars, 775 tout simplement. Le mec sort juste major de polytechnique, quoi. T'imagines le niveau? Le chercheur explique qu'il fut lui-même étonné par les résultats de ses travaux. Effectivement, nous étions surpris par la magnitude des chiffres, au point qu'au début, nous avons même pensé commettre une erreur. Voilà. Au moment de la mise en ligne du document de travail, nous avons également diffusé des données de réplication pour que nous voulions que nos collègues puissent nous dire s'il y avait un problème dans l'analyse. La simulation dresse un scénario théorique pour lequel rien n'est fait, donc, hein, c'est si on fait rien. Pour lutter contre le réchauffement climatique, le PIB en 2100, je pense qu'il. Non, je sais pas. PIB. Ça précise pas s'il parle de la France ou du PIB mondial, mais je pense qu'il parle du PIB mondial. Continuons, on va comprendre, je pense. Le PIB en 2100 serait alors environ 2 fois plus faible que dans un monde sans réchauffement. Car la hausse des températures, en plus des destructions liées aux inondations ou aux tempêtes, affecte directement la productivité, l'investissement et donc la croissance économique sur le long terme. Surtout, son approche se distingue des modèles traditionnels en se fondant sur l'évolution de la température moyenne mondiale plutôt que sur les effets locaux pays par pays. Voilà, merci pour le ban. Sugar, j'allais le faire. Voilà. Le pire, c'est qu'on a un historique. Waouh. Si c'était une blague d'un atroce mauvais goût, parce que la personne est là depuis très longtemps, j'ai 560. Il y a une personne qui vient de commettre un message monstrueux dans le chat, qui a 564 messages d'ancienneté, donc qui est là depuis longtemps, c'est sa première modération. Je me demande si c'est pas une blague d'un mauvais goût monstrueux. Monstrueux. Sugar, dans le doute, a banni, parce que la phrase était monstrueuse. À toi de nous envoyer un message pour faire appel de cette décision de modération, parce qu'on ne pouvait pas laisser passer ça. Pour nous expliquer pourquoi tu as écrit ça dans le chat. Merci Sugar. Donc surtout, son approche se distingue des modèles traditionnels en se fondant sur l'évolution de la température moyenne mondiale plutôt que sur les effets locaux pays par pays. Et là, c'est hyper intéressant. La France souffre de sécheresse et perd du PIB. La Norvège, par exemple, elle gagnerait de la croissance avec un climat plus clément. Genre, la Norvège, ils sont gagnants. Ils sont gagnants économiquement du réchauffement climatique. Cela permet de mieux capter les impacts globaux du désordre climatique, notamment ceux liés au réchauffement des océans, aux intempéries, aux interactions entre économies. Le chaos climatique est responsable de l'accélération des ouragans, sécheresses, inondations qui dévastent l'économie, vous le savez. Et leur prise en compte macroéconomique permet de mieux cerner la somme des phénomènes locaux. C'est pour ça que je pense qu'il parle d'un PIB mondial. En adoptant une approche globale, les travaux d'Adrien Bilal montrent que les effets du réchauffement ne se compensent pas entre régions. À l'échelle mondiale, les pertes dominent largement les éventuels gains locaux, comme en Norvège. Dans une autre étude, notre jeune économiste, Adrien Bilal, a exploré l'impact économique du réchauffement comté par comté aux États-Unis. Là encore, les résultats sont surprenants. L'économie du sud-est du pays, du Texas aux Carolines du Nord et du Sud, en passant par la Floride, est la plus exposée. Et l'analyse montre que le phénomène affecte davantage le capital que les populations, car celui-ci est beaucoup moins mobile. Il y a une différence fondamentale entre le capital et les personnes. Le capital physique ne peut pas bouger. On ne va pas déplacer des bâtiments lorsque les conditions diplomatiques se détériorent. Climatiques. La valeur du capital tend donc à se déprécier. En revanche, les gens peuvent se déplacer et s'adapter aux conséquences du changement climatique. Troisième axe de recherche, un État a-t-il intérêt à agir seul contre le réchauffement pour tenter de s'en protéger? Parce que c'est un grand débat ici que nous avons régulièrement. À quoi bon agir, nous Français, nous Européens, si les autres, toujours les autres, ne font rien? Un État a-t-il intérêt à agir seul contre le réchauffement pour tenter de se protéger? La réponse dépend de la taille, de sa taille et de l'ampleur des dommages attendus. Plus le coût du changement climatique pour le pays est élevé, plus il devient rationnel pour un grand pays ou une grande région, comme les États-Unis, comme l'Europe, de mettre en place des politiques climatiques, même sans coordination internationale. D'une manière générale, Adrien Bilal revisite également l'analyse coût-bénéfice classique des politiques climatiques en intégrant deux éléments, les coûts du réchauffement beaucoup plus élevés qu'on ne pensait, le rôle de la croissance économique qui tend à accroître les émissions. Dans ce cas, le risque est que les dommages deviennent si importants qu'ils échappent à tout contrôle. Il ne s'agit donc plus seulement d'optimiser les émissions, mais de fixer une limite à ne pas dépasser. Malgré ses réflexions autour du réchauffement, le jeune économiste n'entend pas devenir un gourou du climat et s'intéresse à d'autres sujets d'activité. Attendez, il y a un truc intéressant qui arrive. Salut Cré-Cré. Lui qui aime travailler sur plusieurs sujets différents s'est également fait remarquer par une analyse de la sous-traitance. La sous-traitance. Il explique que la sous-traitance procure des gains de productivité, mais ceux-ci sont captés par les firmes donneuses d'ordre, ce qui n'est pas une grande surprise, mais qui est vérifié par ses recherches, qui pressurise des sous-traitants ayant parfois un seul client. Aucune surprise, hein, mais c'est confirmé par la recherche. C'est bénéfique pour la production, mais cela détériore les conditions sur le marché du travail pour les travailleurs qui sont particulièrement exposés à la sous-traitance, détaille le jeune homme. Se considère-t-il pour autant comme un économiste engagé? Non, mon objectif est de produire la meilleure science possible afin de proposer les meilleures options possibles au régulateur. Le régulateur, c'est le politique, hein, qui prend ensuite les décisions. Cette séparation est bénéfique à mon travail. Intéressant. Pas mal, hein? Voilà. Adrien Bilal, meilleur jeune économiste 2026. Salut, Oltéo. On enchaîne? Go! Je suis où là? Ah, la lune! Il lui manque la formation Valo dans son CV. Effectivement, tout brillant, tout beau gosse, il est, ce monsieur Bilal. C'est bien beau de sortir major de Polytechnique, mais vous avez raison, lui ne vous propose pas de formation valorante. Voilà. Garantie ou remboursée, point d'exclamation. Formation, je vous le rappelle, je lance dans les prochains jours ma formation en 12 heures garantie, niveau radiant ou remboursé. Voilà. Niveau radiant remboursé si vous avez déjà joué au jeu, niveau gold sinon si vous n'avez jamais lancé le jeu. 12 heures. Voilà. En prix, alors le prix vous sera précisé dans quelques jours. Pour l'exclamation formation, vous avez le clip de présentation qu'on a, sur lequel on a bossé avec nos équipes. Voilà. Et voilà, c'est un step très important pour moi. Je suis très heureux de ce projet. Je vous donne tous les détails dans les prochains jours. J'en prends 10. 10 heures? Ah non, 10 fois 12. Une formation suffit. Hein. Ouais. Oui, c'était le leak d'hier, exactement. C'est Joe, sans faire exprès, il a montré un visuel hier. Bon, c'est pas très grave, puisque je devais l'annoncer aujourd'hui de toute façon. Exactement. C'est pas très grave. On peut payer en visibilité. Alors, non, parce que j'ai eu vraiment beaucoup de frais sur ce projet. Je me suis documenté auprès de beaucoup de professionnels, de coachs, de champions e-sport. Voilà, donc il y a toute une économie derrière, il y a beaucoup de travail pour mettre au point cette formation. Et donc, mais vous verrez, je dévoile le coût dans quelques jours là, et c'est par rapport à ce que ça va vous apporter. Pour le coup, c'est coachy quoi. Avec bien appliqué, vraiment appliqué à la lettre, c'est un outil qui va vous permettre de jouer à un niveau compétitif VCT quoi. Ça n'a pas de prix, pas encore. On le fixe là, on est en train de le fixer en ce moment. Ça manque de quantique, c'est dommage. Ah oui, on n'a pas du tout intégré le quantique. J'ai le temps de monter un dossier CNC talent pour les 50% prise en charge. Je ne suis pas au courant de ce débat avec Sal, mais renseigne-toi. Tu fais une formation pour être millionnaire en 12 jours ? Non, ça c'est plutôt des gens qui sont basés à Chypre qui vous proposent ça. Mais là, je sais pas. Voilà, je connais pas ces gens. Je peux pas me garantir de la qualité de ces formations. Le CPF. Alors on est en échange avec le ministère du Travail et le ministère de l'Éducation nationale pour que Sam Jean-Claude, tu puisses éventuellement utiliser une partie de ton CPF effectivement pour cette formation. Puisqu'il y a une dimension professionnalisante, puisque certains de ceux qui vont utiliser cette méthode vont, à mon avis, peuvent devenir professionnels, joueurs professionnels. Donc, pourquoi pas. On enchaîne ? Je vous emmène sur la Lune, parce qu'on est comme ça ici. Let's go ! Alors, bientôt sur la Lune, la base sur la Lune, une base sur la Lune. Voilà. Calmons-nous, 2036, les scientifiques disent hop, 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 doucement, doucement, doucement. On aura sûrement du retard. Mais ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Hein. Bienvenue en 2036 au cœur de la station lunaire. Voilà. On n'est plus en 2026. C'est Samuel Etienne sur Twitch, toujours le même décor. Il a pas mis un rond dans la déco. Et on a une station lunaire. Bienvenue en 2036 au cœur de la station lunaire. La NASA, l'agence spatiale américaine, a présenté la semaine dernière son projet de développement d'une base habitée sur la Lune, défi proche de la science-fiction qui pourrait devenir réalité. Derrière la visée des astronautes, des dunes couleur de sang s'étendent à l'infini sous un ciel d'encre projeté à l'intérieur des casques, le niveau d'oxygène ainsi que celui de la batterie et la date 2036. Au terme d'un voyage de plus de 350 000 km, deux femmes, deux hommes viennent de se poser près du pôle sud sur la Lune. Quatre autres humains les accueillent exaltés. Voilà 6 mois qu'ils n'ont vu personne. Nom de Dieu, on va vivre sur la Lune. Après avoir contemplé ensemble un joli croissant de terre, ils prennent place dans des rovers pressurisés où les nouveaux arrivants peuvent enfin ôter leur scaphandre et respirer naturellement. Des bagnoles sur la Lune, moi je vous le dis moi. Voilà. Direction l'un des trois habitats cruciformes de cette base extraterrestre où on se relaie en continu depuis bientôt 4 ans. Cette histoire n'est pas la trame d'un roman d'anticipation, mais la nouvelle vision de la NASA qui a été présentée mardi dernier. En quelques semaines, l'agence spatiale américaine a bouleversé le calendrier de son programme lunaire Artemis, parce qu'il y a des trucs qui ont été abandonnés, qui accusaient des retards et suscitaient de l'inquiétude, pour décrire, ou plutôt réécrire, moi je dirais, son projet spatial le plus ambitieux de l'histoire récente. Exit donc Gateway, ça c'est abandonné. Hein. Cette station orbitale lunaire qui devait servir d'escale aux astronautes, perte de temps, dit désormais la NASA, les efforts doivent se concentrer sur la base lunaire. L'objectif n'est pas seulement d'atteindre la Lune, mais d'y rester, voilà, explique la Maison Blanche, qu'on ne s'y trompe pas, l'intention est bien de renforcer le leadership américain, terme martelé par la NASA, pour tromper la défaite annoncée, puisque dans la nouvelle course à la Lune, la Chine fait pour beaucoup d'experts figure de favorite. Les Chinois n'ont pas de projet immédiat de station en orbite lunaire. Les Américains se sont dit, n'essayons pas de faire plus que les Chinois, engageons-nous à le faire avant eux. C'est leur mentalité aujourd'hui, dit un Français, l'astronaute Jean-François Clairvoy. Alors, vous êtes nombreux à dire, hein, ça sert vraiment à rien, comme dit Gab Dag. Je suis mort de rire. Alors, peut-être qu'à un moment, ils nous disent à quoi ça sert, je sais pas. Quoi que j'ai tout cassé, moi. Qu'est-ce que j'ai cassé, là? Voilà. C'est marrant, vous n'êtes pas enthousiaste, hein, le Heimester, la conquête spatiale, c'est vraiment le dernier truc sur Terre qui me fait rêver. Moi, ça me fascine un peu, en vrai. Je vous lis. Il y a Lulu Suisse qui dit que ça sert déjà plus que les data centers pour YouTube. Hein. Joli. Retour en 2036, fort du volontarisme affiché par Washington, de quatre voyageurs du futur. Oh, j'ai zoomé. Ils sont où ? Croisent des véhicules robotiques qui travaillent en autonomie, merci l'IA, pour analyser le sol, chercher de la glace d'eau, précieuse denrée qu'offrent les cratères de la région, dont certaines pentes ne voient jamais le soleil. En séparant sur place l'oxygène de l'hydrogène, les explorateurs pourront notamment fabriquer du carburant et faire redécoller leur fusée à moindre frais. Ça fabrique le carburant sur place, les gars. Un engin bondi de 50 km, c'est un drone sauteur. On aura des drones sauteurs. Utilisé pour la surveillance du terrain et accéder aux zones escarpées comme les cratères. Au-dessus de nos pionniers, des satellites observent le sol, leur permettent de naviguer comme s'ils le feraient sur Terre avec le GPS. Il y a un GPS, les gars, sur la Lune. Un peu excentré, vous avez une centrale à fission nucléaire qui fournit une énergie stable et fiable, indispensable pour survivre à une longue nuit lunaire de 14 jours. Est-ce que c'est un drone Tigrou ? Je ne sais pas. C'est un drone Pauline. Au gré des déambulations des astronautes, une poussière collante nocive pour les poumons s'agrège sur les combinaisons. Comprenez, la Lune, c'est dégueulasse. Mais le régolithe, c'est le nom de cette poussière, n'est pas qu'une nuisance grâce aux imprimantes 3D. Il sert à fabriquer des briques nécessaires à la construction de la base. Des bases donc construites en régolithe. Et bientôt, une verrière pour s'endormir au clair de terre ou voir s'approcher les vaisseaux cargo remplis de composants et de vivres. Spéculatif, tout ça, il faut encore le faire. Oui, casual, bien vu, c'est pour l'instant... Comme tu viens de le remarquer assez finement, nous ne sommes pas en 2036. Bien vu. Merci. Quoi ? T'es scrimi, vous avez eu un petit pio ? Il y a un papa ou une maman dans le chat qui me dit qu'il y a 8 mois, ils ont eu un petit pio. Oh ! Trop mignon. Vive les bébés. Pour permettre à sa colonie de s'implanter, la NASA a déjà lancé en 10 ans plus de 50 missions robotiques et plus d'une quinzaine d'équipages se sont succédés. Rien qu'entre 2026 et 2028, 21 lancements, 21 alunissages ont été mis au service de la colonie lunaire. Est-ce que c'est crédible ? C'est la question que posait quelqu'un dans le chat. Lulu ? Hein ? Et tout le monde avait eu des pio ici. C'est la question que quelqu'un posait dans le chat. Est-ce que c'est réaliste tout ça ? En 2026, on garde les pieds sur terre. Les experts que nous avons interrogés sont sceptiques quant au calendrier annoncé. 2036, never. Alors que la première mission habitée du programme, Artemis 2, a déjà été retardée à plusieurs reprises. Si les conditions le permettent, 4 astronautes doivent décoller mercredi, c'est dans 2 jours, au plus tôt pour un voyage de 10 jours autour de la Lune. L'astrophysicien Francis Rocard juge très optimiste les lancements en 2028 d'Artemis 4 et 5 qui doivent voir les deux premiers équipages se poser sur la Lune. Le véhicule spatial n'est toujours pas prêt. La fusée Starship de SpaceX d'Elon Musk se disputant les lancements avec Blue Moon de Blue Origin de Jeff Bezos. Salut Devakin Poulet. Plein de belles choses. Mais on est en train de réarmer ou quoi ? Je vois que les histoires de bébés dans le chat là. Ça réarme très fort ici, hein. Vous allez nous sauver le système de retraite, vous, les chouchous. Hein. C'est incroyable. Le calendrier n'est pas réaliste, comme d'habitude dans le spatial, admet Jean-François Clairvoy, mais il faut toujours se donner un objectif ambitieux, quitte à le reporter, pour motiver les ingénieurs qui sont des passionnés. si on leur met dans les mains un projet dont l'échéance annoncée de mise en œuvre est au-delà des 10 ans, ça les motive moins que s'ils sentent qu'ils le vivront au cours de leur carrière. C'est drôle. La NASA pourra toujours rappeler ce qui s'est passé, qu'il ne s'est passé pardon, que 8 ans entre le discours de John F. Kennedy annonçant l'envoi d'hommes sur la Lune et le grand bond pour l'humanité de 69. 8 ans. 8 ans. Waouh. Ça ressemble à la science-fiction, a concédé Carlos García Galán, responsable du projet de base lunaire à la NASA. Mais vous savez quoi ? Nous allons le transformer en réalité. Est-ce que vous pensez que de notre vivant, 36, normalement oui, est-ce qu'on va connaître une base lunaire ? Large, me dit Sugar. Ouais, mais vous, les jeunes, vous êtes c'est les jeunes, là. Mais moi. Vous y croyez ? Certains y croient. Ah, je vois des inquiets, mais je vois des optimistes aussi. Ça a la gueule en vrai. Ouais. Il y a Archange qui dit du vivant de Michel Drucker, probablement. J'aime bien l'idée. Oh! Ce serait tellement beau que Michel Drucker puisse commenter en direct la première base lunaire. Hein ? Quelle image ! Ce serait beau, comme un passage de témoin un peu. Ah, pourquoi je passe du coq à l'âne ? Dans quelques jours, le 8 avril, je participe à une... On m'invite à une conférence... pour parler de l'évolution des médias et du passage des médias traditionnels à Twitch notamment. Je sais même pas. Non, à Tours, j'y vais aussi. Mais Tours, c'est.
Je sais plus quand c'est Tours.
Je vais à Tours aussi, ouais. Aux rencontres sur le journalisme de Tours, là. C'est dans le cadre d'un événement qui s'appelle The Future of TV Advertising. Voilà. Et j'interviens juste après le numéro 2 de France Télévisions qui vient aussi témoigner. Et Tours, effectivement, je vais à Tours aussi pour un festival journalisme. C'est le 7 avril ? Ah non, ça c'est autre chose. Le 7 avril ? Putain, mais c'est quoi cet agenda ? Laissez-moi prendre mon agenda. J'ai encore accepté trop de trucs. Moi. Qu'est-ce que j'ai dans mon sac ? Ah bah mes feuilles de notes que je cherchais tout à l'heure. Des viennoiseries que j'ai ramené de questions pour un champion. Des mini croissants, des mini trucs. Mon agenda. Faut pas que je les mange par contre. Alors attendez, je vous dis ça. Voleur. Non, c'était les miennes, je les ai pas mangées. Alors attendez. Je vous dis ça. Donc. Alors, ah oui, le 7 avril, je suis à Tours, l'après-midi, où je participe à deux tables rondes, enfin deux trucs sur des trucs. Les assises du journalisme, ça s'appelle. Voilà. Le lendemain, donc, j'ai un truc dont je vais vous parler là. Et le 11 avril, il y a le salon MVP, ouais. Voilà. Ah oui, c'est vrai, ouais. Alors, est-ce que c'est de l'argent public, les petites viennoiseries là ? Bah, en fait, la production, c'est une boîte privée, c'est Fremantle, hein. Ouais. Donc, je sais pas si on peut vraiment parler de.
Eh oui, ça méritait, il a pris de l'argent.
Ta gueule, pro. Je sais pas. C'était pour moi, hein. C'était des trucs que je suis censé manger, hein. On enchaîne ? Qu'est-ce qu'il nous reste ? Ah oui, c'est le dernier sujet. Charles en train de prendre des notes. Bah, il ferait mieux d'écrire ses excuses, l'autre, là. Sinon, ça va chier. Alors, dernier sujet, et ça, on va le mettre sur YouTube, les beaux gosses, parce que je trouve ça hyper intéressant. Voilà. L'évolution du podcast, le grand virage du podcast vers la vidéo. C'est la commu, c'est Camille qui m'a signalé cet article dans le Figaro. Voilà, effectivement, je suis allé le voir, il est vachement intéressant. Et moi, c'est une question que je me pose parce que je viens de découvrir l'univers du podcast il n'y a pas longtemps. J'ai été invité dans les beaux podcasts, d'ailleurs, Marie-Sophie Laroui, Patrick Beau, Méniel. Voilà. Et donc je suis invité chez des podcasteurs, là, j'explore un petit peu cet univers. Et puis, vous savez que la revue de presse, elle est en podcast depuis... Depuis la rentrée, depuis septembre, tous les jours, la matinée Étienne, on la poste. Alors là, elle est en soirée, c'est un peu différent. Donc là, elle arrive le lendemain à 4h du mat, voilà, pour accompagner votre réveil. Et puis, quand je la fais le matin, elle est postée à 15-16h l'après-midi. Voilà, il y a plein de gens qui nous écoutent et ça me fait très plaisir en podcast audio. Donc c'est aussi en pensant à eux, si vous m'écoutez, je vous embrasse. Les auditeurs, puisqu'il y a un sujet justement sur le grand virage du podcast vers la vidéo. Hop! Et on va le mettre également pour nos amis de YouTube. Merci Dragono, tu régales. Et c'est parti. Amis de YouTube, bonjour. Vous êtes non pas dans la matinée Étienne, mais dans la soirée Étienne. Parce qu'en ce moment, la revue de presse, c'est le soir. Parce qu'en ce moment, la journée est question pour un champion. Et dans la revue de presse qui touche à son terme, là, on voulait partager avec vous aussi, les amis de YouTube, eh bien, cet article que je trouve très intéressant. Hop, j'enlève une miette de pain au chocolat sur ma tablette. Je ne sais pas d'où ça vient, ça. Sur le grand virage vers la vidéo qui chamboule l'univers des podcasts. Alors moi, justement, c'est une question que je me posais. Podcast audio, jusque-là, je comprenais. Et puis, on parle de plus en plus de podcast vidéo. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que ça change ? Let's go. Média audio, à la base, le podcast. Il y a plein de miettes de croissant et de pain au chocolat sur cet ordi. C'est pas possible, c'est bordel. Alors, qui m'a mis des miettes de pain au chocolat et de croissant ? C'est dégoûtant. Encore avec de l'argent public, ce truc. Média audio, le podcast est en train de muer vers l'image sous l'impulsion de YouTube. Ah ben, amis de YouTube, c'est pour vous ça. Ah, c'est de votre faute. Une révolution tellurique pour cette industrie. Tellurique, c'est quand la terre elle bouge, quoi. Lorraine Bastide dit stop. La productrice qui a lancé il y a 10 ans le podcast audio féministe La Poudre, je la connais Lorraine Bastide, a annoncé le mois dernier sur LinkedIn arrêter la version vidéo. Elle revient en arrière. De sa nouvelle émission d'entretien sur la santé mentale Folie Douce. Donc, elle était en audio, elle est partie en vidéo, donc je suppose sur YouTube. Elle revient en arrière. La vidéo, ça coûte cher, prend du temps, mobilise de l'énergie pour une valeur ajoutée minimale, écrit-elle. Je n'ai pas envie de me cramer dans la course à l'attention. Je fais des podcasts pour partager avec vous des conversations longues et profondes, pas pour écrire les titres de mes épisodes en majuscules, dit-elle en majuscules, ou découper les interviews en réel, format vidéo d'Instagram de 20 secondes. De l'autre côté de l'Atlantique, et écoutez bien les amis, parce que dans un instant, je vais vous demander votre avis sur ce sujet, parce que je pense que vous maîtrisez mieux ça que moi. De l'autre côté de l'Atlantique, donc comprenez aux States, d'autres figures du podcast ont pris une décision radicale, arrêter les frais. L'émission pionnière WTF, je pense que c'est What the Fuck, with Marc Maron, a ainsi pris fin après 16 ans d'existence, 1700 épisodes, 55 millions d'auditeurs par an. Nous savions qu'à l'avenir, nous ne pourrions plus faire de podcast comme nous le souhaitions, c'est-à-dire au format 100% audio, a expliqué son producteur. Eux, ils ont carrément arrêté. C'est dingue, ça. L'industrie du podcast fait donc face à une révolution tellurique. On a compris, tellurique, ok. Est-ce que révolution tellurique, c'est pas un peu la même chose, d'ailleurs ? Révolution, c'est quand ça bouge. Elle est née... Donc cette révolution dans le courant des années 2010 aux États-Unis, c'est pas si vieux, hein. Propulsée par l'application Apple Podcast, on vous salue vous qui nous écoutez sur Apple Podcast et sur les autres plateformes de podcast parce qu'on n'est pas jaloux. Sa promesse, des entretiens, des documentaires, des fictions audio écoutable. J'ai perdu le fil. À la demande et qui, par leur forme, leur longueur, les thématiques abordées n'auraient pas eu leur place sur les grilles des radios linéaires. La France a suivi cette vague avec la naissance, entre 2015 et 2019, des studios Nouvelle Écoute, Binge Audio, Louis Media, Paradiso, Magellan, ainsi que la création de podcasts dits natifs chez les radios et les médias traditionnels. Mais 10 ans plus tard, ça change. Le marché se tourne vers un tout autre genre de podcast qui touche un public bien plus large, une table, ça moi j'ai, deux micros, j'en ai d'autres, une célébrité à l'animation, une star d'Instagram, une vedette de la télévision, une actrice, un sportif, un entrepreneur, une conversation complice avec l'invité, le tout filmé dans un studio à l'esthétique léchée, cette fois c'est YouTube qui impulse la tendance du podcast vidéo. Parce que moi, au début, quand les gens ont commencé à me parler de podcast, on me dit « Ah, mais Sam, tu devrais aller en podcast. » J'ai pas compris, j'ai dit « Mais podcast, c'est audio, mais c'est quoi le podcast vidéo ?» Et en fait, corrigez-moi si je dis de bêtises, mais en fait, le podcast vidéo, bah, c'est sur YouTube. On est d'accord. C'est ça ou c'est pas ça? Ou alors, ça peut être même sur Twitch d'abord, comme Zach en roue libre, et à part sur MJ, t'es d'accord? Ah, alors Sugar me dit pas que. Ah, Renifleur de Paix me dit « Non, ça n'a rien à voir. » Ah, vous avez raison, il y a de la vidéo sur Spotify. Ah, c'est tout récent, hein. Alors, Spotify vidéo, vous faites les malins, mais c'est tout récent, ça vient de sortir. Oui ou non? Oui ou non? Avant, on parlait de podcast comme format YouTube, mais ça a changé. Ah, oui, c'est tout nouveau. Donc, avant, il y a encore peu de temps, quand on disait podcast vidéo, c'était du YouTube. Oui ou non? L'interro. Quelques mois, voilà, c'est très récent. Je sais, parce que moi, ils m'ont demandé Spotify si je voulais aller truc là. C'est une interview, c'est pas nouveau, me dire quand, sauf que maintenant, on met l'étiquette podcast. YouTube ou Twitch. Ok. Non, parce qu'en fait, moi, j'essaie de comprendre ce truc et je trouve pas très clair. Ok, continuons. Donc 10 ans plus tard, le marché se tourne vers un tout autre genre de podcast, c'est ce qu'on évoquait un instant. Voilà. Et cette fois-ci, c'est YouTube qui a impulsé la tendance du podcast vidéo. Donc ce n'est pas que YouTube. Le grand succès de Légende, émission lancée par l'ex-animateur de Energy Guillaume Play, est la parfaite illustration de cette tendance. Alors moi, je scrolle un peu sur TikTok, là, je crois, sur TikTok, et je vois qu'il y a un gars qui imite Guillaume Play, vous savez. Il y a un gars, il fait des petits clips, là, des petits sketchs. Alors moi, ça me fait rire. Le gars imite Guillaume Play et il imite l'invité. Je ne sais pas si vous voyez qui je veux dire. Et vraiment, c'est drôle. Ah, vous êtes d'accord? Vous voyez? Comment il s'appelle? Koudi, vous dites? Ah, il est drôle. Il me fait beaucoup rire. Il est très bon. Et je crois même qu'il a reçu... Je me demande, je crois qu'il a même interviewé Guillaume Play. C'est bien fait, hein? C'est ça. Le podcast est désormais au croisement de la télévision et de l'industrie des créateurs de contenu et la barrière à l'entrée est plutôt basse, explique Philippe Lamarre, président fondateur d'un groupe média québécois qui s'appelle Urbania. Voilà. Ce dernier vient de racheter Binge Audio à la barre du tribunal de commerce et va passer dès le mois prochain. C'est un programme du studio en version vidéo. YouTube est devenu un point d'entrée central dans la consommation de ses émissions et revendique 1 milliard d'auditeurs par mois. C'est là, ça se mélange un peu dans ma tête, YouTube qui parle d'auditeur de podcast vidéo. C'est pas un auditeur du coup, c'est un viewer ou c'est un spectateur. Ouais. Cela a obligé Spotify à intégrer la vidéo dans son application. Vous voyez, c'est pas très vieux. Apple Podcast s'apprête à le faire de même dans les prochaines semaines et quelqu'un me le disait dans le chat. Ils veulent reprendre de la part de marché à YouTube. Mais du coup, moi, qui fais cette revue de presse sur Twitch, qui est posté sur YouTube depuis longtemps et qui depuis est en podcast audio sur les plateformes de podcast audio, je suis où, moi? Vous savez où je suis? Je suis perdu, moi. Voilà ce que je vous dis, moi. L'heure tourne pour Apple. D'après une étude Goldmine Insight, seuls 9% des Gen Z américains consomment des podcasts sur son application contre 35% sur Spotify et 46% sur YouTube. Ce virage pousse les acteurs historiques du podcast, donc comprenez audio, qui ont construit leurs audiences et leur notoriété sur l'audio, à s'interroger. Voilà, c'est ça la question. La vidéo, est-ce qu'il faut y aller? Et si oui, comment? Est-ce qu'on a envie de se montrer? Ah oui! Vous savez, moi qui ai fait de la radio aussi avant de faire de la télévision et qui adore ce média, la radio, c'est, il y a une part de mystère. La radio, c'est une voix. Longtemps, les gens qui écoutaient la radio, à une époque où, lointaine, où il n'y avait pas les podcasts, où il n'y avait pas la radio filmée notamment, c'était qu'une voix, et tu ne connaissais pas le visage de la personne, et tu avais des voix magnifiques de radio, des voix d'hommes, de femmes, que tu avais envie d'écouter pour les infos, pour des histoires. Voilà, et parfois, tu vois, un jour, tu découvrais leur gueule, tu disais « Waouh, ils ne ressemblent pas du tout à sa voix !» Voilà. Et en fait, c'était ça, c'était des gens qui avaient des voix, des belles voix, qui avaient de la présence, qui arrivaient juste par la magie des mots, et par le ton des mots, par la musique de la phrase, par la musique des silences aussi, qui arrivaient à créer comme ça une ambiance incroyable. C'est ça la radio. Et puis, à débarquer il y a quelques années, eh bien, on filmait la radio. Maintenant, vous avez des matinales de radio qui sont filmées. Et comme d'autres vieux croutons, j'ai dit « Ah, c'est dommage !» Parce que la magie de la radio, elle est peut-être en train de disparaître. Après, je ne sais pas si beaucoup de gens consomment de la radio filmée. Mais donc, finalement, c'est cette même question qui se pose, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être allés faire du podcast audio parce qu'ils n'avaient pas envie de montrer leur gueule aussi. Voilà. Et c'est ça aussi. La vidéo, faut-il y aller? Si oui, comment? Est-ce qu'on a envie de se montrer? Tout le monde n'a pas envie de se montrer. Tout le monde n'a pas cette envie irrépressible, d'un Samuel Etienne qui veut montrer tout le temps sa gueule. Voilà, est-ce que vous m'avez vu? Vous avez vu, je présente un jeu, puis je fais ça, puis vous avez vu, je fais Twitch aussi, puis YouTube. Vous avez vu que je mets des petits clips sur Instagram et sur TikTok? Vous m'avez vu ou pas? Et vous m'avez vu quand je suis tout nu? Non, ça c'est une fake news. Voilà. Ouais, y a des gens qui n'ont pas envie de se montrer, quoi. Est-ce qu'on a envie de se montrer, de jouer à l'influenceur? Ceux qui acceptent de jouer le jeu de l'image sont souvent récompensés, mais tout le monde n'en a pas forcément envie. Voilà. Explique Mélanie Vazeux, qui représente plusieurs créatrices de podcasts comme Lorraine Bastide, comme Victoire Tuaillon, comme Lucille Woodward dans son agence. Ouais. L'idée de devoir filmer mes entretiens m'a déprimé, dit par exemple Clémentine Gallet, qui a créé en 2018 l'un des plus grands succès du podcast français avec plus de 110 millions d'écoutes, Bliss Stories. Je crois que mon amoureuse, elle écoute ça. Des entretiens avec des anonymes ou des célébrités sur l'expérience de la maternité. Ouais, c'est ça. Mon amoureuse m'a parlé de ça. Elle me dit, c'est top. Je viens de la télévision et en lançant Bliss, j'avais précisément voulu m'affranchir de l'image pour capter, c'est ce que je disais à l'instant, l'émotion par la voix, retrouver la pureté de l'échange. Parce que l'image, c'est très puissant, mais l'image, c'est aussi polluant. Quand il n'y a plus l'image, quand il n'y a plus les visages, quand il n'y a plus plein de choses, quand il n'y a plus le théâtre, les gars qui font des gestes, qui parlent avec leurs mains, c'est épuisant ça. Et du coup, faites plus attention aux mots, et peut-être aux idées aussi, je dirais. Et donc, elle dit, je suis allée vers la vidéo à reculons, mais voilà, les usages changent, alors on s'adapte, dit-elle. Je vais vous lire. 6 mois après l'ajout de la vidéo à son programme, qui continue d'être disponible en version audio par ailleurs, Clémentine Gallet constate qu'on touche une autre audience plus jeune sur YouTube. Nous travaillons donc à de nouveaux formats pour ces jeunes femmes de 20-25 ans qui n'ont pas d'enfants mais sont curieuses. L'un de ses derniers entretiens avec la TikTokeuse pseudo de ouf 19 ans a dépassé les 500 000 vues sur YouTube. On a touché une cible qui ne nous connaissait pas. Et oui, donc peut-être que la cible YouTube pourrait être plus jeune que la cible podcast audio. Le studio Louis Média a aussi vécu la même surprise, bien que ses programmes ne soient pas filmés, mais illustrés avec des animations. Ok. Les acteurs interrogés sont unanimes, l'attrait pour YouTube repose sur la facilité avec laquelle cette plateforme fait découvrir des podcasts. Chose que les plateformes audio n'ont jamais su faire, remarque Mélanie Vazeux. YouTube sera un formidable outil pour faire découvrir des contenus. Ce que les plateformes de podcast ont du mal à faire. C'est intéressant, hein? Personne n'est repéré par ce service vidéo d'un coup de baguette magique. On parle de YouTube. Il faut maîtriser les codes, comprendre la manière dont fonctionnent ces algorithmes. Intéressant. Et puis un autre levier vidéo devient incontournable pour se faire connaître, c'est celui des courts extraits des meilleurs moments d'un podcast en format vertical, propulsé sur YouTube Shorts, TikTok, Instagram. Bon, j'avoue, moi aussi, je fais un petit peu ça. Hein. Ah oui. C'est intéressant, ça, ouais. Ça parle de Mathieu Gallet, ancien PDG de Radio France. Bon, il a été un petit peu tout, il a un petit peu été condamné par la justice pour un petit truc, mais ça, l'article ne le rappelle pas. Excusez-moi. Ah oui, bah, il faut contextualiser aussi un petit peu. Cofondateur de Magellan, hein, qui a lancé il y a quelques semaines le podcast vidéo Bourdin Média. C'est ça, l'ancien associé d'Arthur, ouais. Bourdin Média. Jean-Jacques Bourdin, qui arrive en podcast vidéo. Avec le célèbre journaliste politique, l'ancien intervieweur, star de BFM RMC puis Sud Radio. Jean-Jacques Bourdin a vu le poids des podcasts dans la campagne américaine de 2024. Malinx, ce lynx. Il estime qu'ils vont aussi jouer un rôle pour notre présidentielle de 2027. Donc il y a M. Bourdin qui se met au podcast. L'ajout de la vidéo à la panoplie des studios de podcast oblige ces derniers à se doter de nouvelles compétences. Qu'en est-il des revenus dégagés? Les revenus venant des coupures publicitaires de YouTube sont pas très lucratifs, c'est toujours ça de prix, mais ça ne révolutionne pas notre business model qui provient pour moitié de l'événementiel et de l'e-commerce, explique Clémentine Gallet. Le coût pour quelques 1000 vues sur YouTube est de quelques euros contre 70 à 90 euros pour le podcast audio. La question, c'est que le modèle économique du podcast audio, ça peut être très intéressant. Mais le format vidéo va inciter les annonceurs et les agences médias françaises à penser autrement, donc ça pourrait changer. Alors, question, vit-on, je voudrais bien votre avis là-dessus. La fin du podcast audio, je crois à l'audio comme au premier jour, il y a toujours un besoin de déconnexion, affirme Charlotte Pudlowski, qui rappelle que tous les types de podcasts ne se prêtent pas à la vidéo. Mélanie Vazeux rappelle également que les podcasteurs historiques avec des communautés engagées peuvent se passer de la vidéo. Ceux que j'accompagne publient des livres, ont des newsletters payantes, font des conférences, leurs sources de revenus sont diversifiées. Mais il risque d'être difficile de résister aux caméras face à l'arrivée de nouvelles plateformes de distribution. Disney+, co-diffuse aussi le podcast de Lena Situation. Aux États-Unis, Netflix a noué des accords de distribution avec des studios spécialisés, a lancé ses propres podcasts vidéo originaux. C'est vraiment les plateformes qui lancent des podcasts comme ça pour attirer du trafic. Hein. C'est une manière pour eux de garder leurs abonnés engagés avec du contenu moins coûteux qu'une série. Selon nos informations, ces acteurs américains ont commencé à approcher plusieurs studios français. Moi jamais, hein. J'attends toujours les coups de fil de Netflix et Disney+, hein. Rien du tout, hein. Peut-être que la formation que je viens de lancer sur Valorant va changer un peu la donne, point d'exclamation, formation dans le chat. N'hésitez pas à vous renseigner, dans quelques jours je vous donne les tarifs, tout ça. Voilà. Radiant, garanti ou remboursé, je vous le rappelle. Selon nos informations, ces acteurs américains ont commencé à approcher plusieurs studios français. Ça n'est pas fini. Pour alimenter son application pour téléviseurs connectés, TikTok souhaiterait également diffuser des podcasts vidéo en intégralité. Merci Mzin. Merci Tescrimis. Merci beaucoup. Voilà. Votre avis sur les podcasts, là. Marceau, après, l'intérêt du podcast, c'est aussi le côté léger, pas prise de tête. Tu fais ton ménage. Oui, c'est vrai, le truc que tu n'es pas obligé de regarder, justement, tu peux écouter. Tu mets un podcast dans ton enceinte et voilà, la vidéo, c'est souvent superflu. Moi, j'ai beaucoup, vous le savez, il y a beaucoup de viewers sur Twitch qui sont en fait des auditeurs. Hein, ma revue de presse, là, je blablate et je blablate. Et je parle. Beaucoup l'écoute, en fait, hein, en faisant d'autres choses. Le ménage, la cuisine, bosser, les révisions, des choses plus intimes aussi. Hein, je sais, j'ai eu des témoignages. Je sais qu'il y a des viewers qui... Moi, je vais pas vous faire un dessin, mais bon, voilà, quoi. Et oui, bah oui, c'est la vie. Il faut réarmer, les gars. Faut pas se faire comme ça, hein. Et oui. Moi aussi, personnellement, j'adore, me dit Malo, les livres audio aussi, c'est agréable de pouvoir écouter tranquillement sans avoir besoin de regarder. Et oui, ça réarme en écoutant la revue de presse, bien sûr. Oui, bah oui, mais c'est bien, c'est pas sale. Hein. C'est pas. On parlait de fun tout à l'heure, c'est pas sale, c'est beau l'amour, hein. C'est très bien. Tu peux aussi en écouter avant de dormir, mais sans regarder l'écran, puisque regarder les écrans avant de dormir, c'est pas génial, bien sûr. Merci Lightness, merci I Lightness, merci beaucoup. Merci Alexandra pour ton message. Ton mi, alors le problème avec Alexandra, j'ai pas. Merci pour ton message que je n'ai pas compris parce que tu dis ton micro par mois, il est au podcast plus en vidéo. Alors je comprends globalement le message, mais le micro par mois, je l'ai pas. Tu parles de MVP? C'est ça? En soi, la radio n'est pas morte, la télé non plus, donc il y a peu de chances que le podcast audio meure. Bonne remarque, bonne remarque. Micro plus fort, d'accord. On a une belle scène podcast francophone, il faut s'en réjouir. Merci Giuseppe. J'écoute beaucoup de podcasts en voiture ou quand je bricole, Olive. Ah, t'appelles ça comme ça, toi, le bricolage? On sait, Olive, hein. Ça bricole fort. Ah, mais c'est bien. J'écoute quand... J'écoute pendant les conversations que j'ai avec ma belle-mère, me dit Super Chaussette. Ah, je vous aime. Merci pour tous ceux, merci qui me parlent de parce que j'ai été invité dans des podcasts récemment, je me suis encore raconté ma life là, merci, vous êtes très sympa. Mais... en train de dessiner, aucun regard sur l'écran, voilà, mais je sais que certains ici ne me regardent jamais, je sais, je pourrais éteindre la caméra, certains ne s'en rendraient pas compte, hein. Je joue à WoW, je suis en lurk la plupart du temps, me dit Yandereko. Voilà, Justin le dit, je suis auditeur. Donc là, pour écrire ce message des auditeurs, vous avez dû me regarder. Et tac! Et ouais, malinx. J'écoute trop de podcasts, me dit Chubu, j'ai 70 heures de retard de programme et j'arrive pas à rattraper le wagon. Mais là, il y a une telle production de fou. Tous les gens qui jouent à WoW en m'écoutant, c'est fou, quoi. Je vous kiffe. Comment ça, il y a une caméra sur ce podcast? Mais j'adore cet humour. Qu'est-ce que vous... Racontez-moi ce que vous êtes en train de faire. Elisabeth me dit peinture de figurine. Racontez-moi ce que vous êtes en train de faire, là. Je t'écoute pour démouler mon cake. Ah, tu fais de la pâtisserie? Trop mignon. Un cake à quoi? Nature, chocolat, vanille? Trop mignon. J'écoute en jouant, me dit Agent Dago. Je joue à WoW, je commande des sushis. Moi, je fais rien, je te fixe dans les yeux, me dit Paku. Je revise mes gammes. Je joue à Darkest Donjon. Je joue à LOL, un peu de guitare. Je raid sur WoW. Je joue à Blueprint, c'est excellent. Balade nocturne du chien, c'est incroyable. Mes courses en ligne, rédaction d'un article pour une revue. Il n'y a personne qui réarme, là. Vous croyez que les retraites, elles vont se payer comme ça? Il n'y en a pas un qui... C'est fou, ça. Je cuisine un bœuf mijoté aux légumes d'hiver. Je révise mon partiel blanc en même temps. Brawl Star. Je regarde ma femme jouer à Power Wash. J'adore les amoureux, là. J'essaie de dormir, mais je me marre trop. Salut à mon slip. Je regarde les photos de mon semi-marathon d'hier. Ça va, Lisa, le flex, là? Je me douchais en t'écoutant. La petite potière, comment ça va? J'avais pas vu que t'étais là. Je me tape une énorme raclette. Oh, j'adore. Je t'écoute en faisant mon crochet. J'écris un débat sur le fait qu'on doit dire chocolatine ou pain au chocolat. Je joue à Life is Strange. Super jeu. Je joue à Pocopia. J'épluche une mandarine. Je regarde un beau gosse qui parle dans un micro pendant que je t'écoute. Tu regardes un autre streamer que moi? C'est où, ça? Désolé, les amis. Je ne vois personne qui réarme. Je crois que notre pays est foutu. Ah, je nourris mon bébé. Ça a déjà réarmé. Non, ceux qui viennent de réarmer, vous êtes excusés. Hein. Mais quand je vois la faible proportion dans cette communauté de gens qui, à 23h08, ne sont pas en train de réarmer, eh bien, ça ne me rassure pas pour l'avenir de notre pays. Hein. Je ne vais pas réarmer tout seul. Hein. Après, ils ne vont pas s'arrêter pour le dire, je pense. Ça ne demande pas non plus, hein, ça ne demande pas non plus une concentration de tous les instants, hein. Tu peux bien tu te mets un peu de côté, tu t'attrapes ton clavier ou ton téléphone, t'écris un mot, tu dis bon, je suis en train de réarmer, quoi. C'est pas le pilotage d'une navette spatiale non plus, hein. Je suis tellement grave. J'ai honte. Je sais pas si j'ai réussi mon cadrage. J'ai l'impression qu'il est plus haut qu'avant. Non, parce que j'ai tout cassé là. Non, ça va. Non, ça va. Ça va, ça va. J'ai l'impression que je suis plus bas que d'habitude. Non, je me suis tassé, non? Parce que j'ai changé mon cadrage pour mon affiche là sur ma formation Étienne là. J'ai l'impression que je suis plus. Non, ça va, t'es sûr ? Camille, ça va ? J'ai pas plus d'air que d'habitude là ? Un petit peu, non ? Non, ça va. Crop un peu la cam sinon.
Ah oui, c'est pas con. Je suis débile.
Je suis littéralement débile. Voilà. C'est bien comme ça. C'est pas mal. Merci les amis. Bon bah je vais y aller parce que bon. Demain j'ai une grosse journée. Normalement c'est 6 questions pour un champion par jour. Et là c'est 7 demain. Parce que la semaine dernière on a eu un problème technique sur le premier jour. On a pu faire que 5 émissions au lieu de 6. Mais qu'est-ce qu'on m'a dit ? Eh ben il va falloir en faire une journée à 7. Oh non, pas une journée à 7. C'est beaucoup hein. Donc ça veut dire que demain matin, le taxi arrive à 6h30 à la maison. 6h30, 6h45, 7h au studio. 8h PAT, prêt à tourner comme on dit. Voilà. Et hop, 8h. Et après, on en fait 7. Je vais arriver demain soir pour la revue de presse. La bouche, elle va être ankylosée. Non, mais ça va, on finit à 19h. Hein. Ça va aller. Comment tu arrives à sourire comme si de rien n'était à la 7e ? Bah parce qu'en fait, les candidats sont adorables. Les candidats sont d'une gentillesse. Aujourd'hui, mais c'est tous les jours. Mais particulièrement, en plus, les candidats sont jeunes, là. Je sais pas à quoi ça tient, mais les candidats sont très, très jeunes. Il y a une ambiance incroyable. Ils sont brillants, ils sont impressionnants. Mais ils sont gentils. Même quand ils perdent, ils sont tout choux. Ils s'excusent presque de perdre, ils sont tout choux. Donc c'est un kiff. Donc quand tu... Entre deux émissions, ça peut piquer un petit peu, mais quand tu retrouves ces gens-là en plateau, tu vois, qui souvent sont entraînés longtemps, pour qui c'est un moment, c'est important de passer, tu vois, dans Question pour un champion. Donc tu te dis, bah vas-y, tu peux sourire quand même, vieux schnock. Je parle de moi. Hein. Voilà. T'es déjà tombé sur un viewer de lors d'émission ? Mais la plupart des... j'exagère, mais il y a beaucoup de candidats qui regardent Twitch, hein, qui regardent YouTube, qui regardent Twitch, qui regardent Rayou, qui regardent Samuel. Et ouais. Je me fais beau pour rentrer chez moi. En mettant un peu les cheveux. Comme ça, podcast, vous voyez pas un podcast audio là, mais ça cache un peu la calvasse là. On a l'impression que j'ai les cheveux. Voilà. Ah, impeccable. Bon, on va faire un raid. Ah oui, ouais, je dois enlever le linge du sèche-linge. Merci. Ouais, merci Lulu. J'ai pas oublié. Ok. Et puis faut que j'ai 15 mails. J'ai pas traité mes mails aujourd'hui. Donc les mails. Et puis on va y recommencer à les jouer. 23h13, c'est bien, 23h13. N'oubliez pas, pour l'exclamation formation, ma formation, je vous montre l'affiche. Ma formation pour Valorant, 12h, point d'exclamation formation, satisfait ou remboursé. La formation Étienne. Officiel Valorant, avec Riot, hein. C'est pas un truc que j'ai fait dans mon coin. Hein. C'est avec Riot, hein, c'est avec Valo, hein. C'est validé. Hein. Ouais. Voilà. Allez, on va faire un raid. Comment ça marche la formation ? Ben, point d'exclamation formation, t'as un clip. Dans quelques jours, je vous donne toutes les infos, les prix, comment on s'inscrit. On peut faire IRL, on peut faire à distance. Punaise, j'ai cru au scam comme avec l'OnlyFans. Non, je lance ma formation Valo. Attends, c'est des mois de travail. Ah non. Allez, c'est qui est en live là ? Qu'on fasse un raid. Non, non, mais c'est certifié par Riot en plus. Hein. Ils me suivent à 200% sur ce projet-là. Allez. Alors, qui est en live? Ouais. Ah. Ça fait longtemps. Oh! Je regarde qui est en live, qui est en live. Oh! Oh, il n'y a que des amis, c'est impossible de choisir, il n'y a que des gens que j'aime bien. C'est impossible. Attendez, je vais tout en bas, je regarde les gens qui n'ont pas trop de viewers, pour te donner un petit peu de force. Oh là là, c'est un peu tout ça, mais il y a littéralement 6 milliards de personnes que je suis qui sont en live. Ouais. On y va? Il y a trop de monde, il y a trop de monde. Solution pour quelqu'un qu'on n'aime pas. Ah non, non, non. Il y a trop de monde là. Allez, c'est parti. Ah, elle est là? Ouais, j'hésite, j'ai vu Trivia, j'ai vu Lydia, il y a plein de gens que j'aime bien. En fait, j'hésite là. Mais attends, mais c'est pas notre bretonne favorite, ça? Attends. Il n'y a pas notre amie bretonne là, Sugar? C'est pas ça? Non? Si, c'est ça, hein? Mais d'accord que c'est Amaé, je me trompe pas, parce que là, elle a un truc sur la tête, on est obligé d'y aller là. C'est elle, c'est ça? Elle a un truc sur la tête. Attends, bah, on va sur. Attends, on l'arrête, c'est une bretonne, on l'a découvert il n'y a pas longtemps là. Elle a un truc sur la tête là, faut y aller. Let's go, on va là. Hein. Amaé, A-M-A, il y a trois A. A-M-A-A-A-E. C'est une bretonne. Elle a un truc sur la tête. Je l'adore. Je crois qu'elle a un petit truc. Je la kiffe. C'est parti. Voilà. Ouais, deuxième raid. Hop. Oh merde. J'ai lancé. J'ai pas éteint la caméra. Il faut que j'éteigne la caméra parce que vous savez, maintenant j'ai des problèmes quand je fais des raids. Je fais n'importe quoi. Ok. Des bisous. Prenez soin de vous. À demain soir pour la revue de presse. Je vais être crevé demain soir. Ce sera encore mieux parce que quand je suis crevé, je dis n'importe quoi. Le raid est en train de charger. J'ai éteint la caméra. J'ai mis la scène de fin. Il peut rien se passer. Si ça se trouve, je suis tout nu et vous n'en savez rien. Let's go. On va voir. Amai, ciao.